Il est 7h.
On sait depuis le départ que les enfants sont moins contaminés, moins contaminants. Clairement, il faut maintenir les écoles ouvertes.
On va tout droit vers un reconfinement généralisé, mais plus souple que celui du printemps dernier pour favoriser le travail et laisser les enfants à l'école. Consensus médical, mais division politique. Les chefs de parti ont été reçus par Jean Castex hier. Une réunion jugée prétexte avant la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir. Le chef de l'État s'exprimera à 20h. Michel Fourniret va-t-il parler? Le tueur en série est dans les Ardennes où les enquêteurs espèrent qu'il va retrouver la mémoire. C'est là qu'il est soupçonné d'avoir tué et séquestré la jeune Estelle Mouzin en 2003. Les appels au boycott des produits français se multiplient dans le monde musulman. 40 000 personnes ont manifesté hier au Bangladesh. Des portraits d'Emmanuel Macron ont été brûlés dans les zones rebelles en Syrie ou dans la bande de Gaza. Reportage dans ce journal. Et puis en football, l'OM corrigé hier soir sur son terrain par Manchester City en Ligue des Champions, défaite 3-0. Je ne suis pas Pep Guardiola, reconnaît l'entraîneur de Marseille.
Juste après ce journal, l'éclairage écho de Daniel Fortin, le regard international de Vincent Hervouet avec des Italiens qui manifestent contre le couvre-feu, le PSG qui joue en Turquie ce soir. Il faut arrêter l'instrumentalisation du foot à des fins politiques. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Et puis nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Ce matin, l'expression de circonstance, on n'est pas sorti de l'auberge. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La France se dirige tout droit vers un reconfinement. C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par l'exécutif pour contenir l'épidémie de coronavirus. Un reconfinement de 4 semaines reconductible, mais qui serait plus souple que celui du printemps dernier. Cette fois, les écoles resteront ouvertes, Victor Dolande.
Oui, les crèches, les écoles primaires et les collèges continueront d'accueillir les élèves normalement. Et pour cause, il y a un large consensus dans la communauté scientifique. L'école n'est pas un lieu de super contamination, comme l'explique Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil.
On sait depuis le départ que les enfants sont moins contaminés, ils sont moins contaminants. Clairement, il faut maintenir les écoles ouvertes. Je parle des écoles, je ne parle pas des collèges, je ne parle pas des lycées, encore moins des facultés et des grandes écoles.
Pour les collèges et surtout les lycées et les facultés, les épidémiologistes s'accordent à dire qu'il faut faire quelque chose, c'est-à-dire passer tous les cours au lycée et à la fac en distanciel et renforcer le protocole sanitaire au collège. Enfin, qu'en est-il sur le port du masque dès le CP ? Pour l'épidémiologiste Dominique Costagliola, il ne faut plus tergiverser.
Je ne vois pas ce qui s'oppose à ce qu'on ait un certain principe de précaution et qu'on recommande du coup le port du masque, y compris aux enfants à partir de 6 ans.
Car même si les jeunes enfants se contaminent peu entre eux, poursuit cet épidémiologiste, il faut les protéger davantage au moment où le virus circule activement dans tout le pays.
Victor Dolande pour Europe 1.
S'il existe un consentement, un consensus évident dans le monde médical pour un reconfinement, du côté des représentants politiques, c'est tout un autre discours.
Oui, ils ont été reçu hier par le Premier ministre Jean Castex et à la sortie, c'est soupe à la grimace. Les chefs de parti ont le sentiment que la réunion n'était qu'un prétexte et que leur avis importe peu. On est loin de l'unité nationale du printemps dernier, Claudia Bertram.
Tous en sont ressortis pour le moins agacés, voire outrés, comme la présidente du RN, Marine Le Pen.
Nous venons de vivre un voyage en absurdie, où l'on nous réunit pour nous demander notre avis sur des mesures que l'on ne connaît pas, des hypothèses que l'on ne connaît pas. On nous a demandé notre avis sur rien.
Quel que soit leur bord politique, ce qu'ils reprochent au Premier ministre de n'avoir présenté aucun des scénarios à l'étude, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS.
Nous avons malheureusement assisté à une forme de grand café du commerce. Nous aurions aimé connaître des différentes options qui étaient sur la table. Sur quoi travaille-t-il ?
Et cela fait dire au président des Républicains, Christian Jacob, que cette réunion était un simulacre.
On a bien compris que tout ça avait pour objectif de mettre en scène une concertation, mais ça donne ce sentiment d'improvisation, de panique, de manque d'anticipation.
Des réactions que ne comprend pas le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Je m'étonne que ceux-là même qui appelle à la concertation, et c'est normal, semble regretter que les décisions n'aient pas été prises avant même que les réunions se tiennent en leur présence.
Un ministre qui était à la réunion dénonce l'attitude de l'opposition. Ils sont irresponsables objectivement, dit-il.
Après avoir réuni un deuxième conseil de défense ce matin, Emmanuel Macron prendra la parole ce soir, 20h. Déclaration à suivre sur Europe 1. La situation épidémique est critique. La moitié des lits de réanimation sont désormais occupés par des malades du Covid, soit plus de 2900 personnes.
Et c'est pour ça que l'exécutif penche pour un reconfinement généralisé, le virus circule partout, plus seulement dans les grandes métropoles, dans les zones rurales aussi. Dans la Loire, le taux d'incidence vient de dépasser les 1000 cas pour 100 000 habitants. Les hôpitaux de Saint-Étienne et Roanne sont proches de la saturation. Celui de Montbrison aussi, une petite commune de 15 000 habitants, Jean-Luc Boujon.
Au centre hospitalier du Forel, les 32 lits de l'unité Covid sont désormais occupés, tout comme les 8 lits de réanimation. En seulement 15 jours, le nombre de patients touchés par le virus a explosé dans ce petit hôpital situé en zone rurale à 35 km de Saint-Étienne, explique le directeur Edmond Makoviak.
La situation est critique. Nous repoussons nos limites de semaine en semaine. Nous augmentons chaque semaine notre capacitaire en lit Covid pour prendre en charge les patients qui sont atteints par cette maladie. À un moment ou à un autre, nous allons atteindre notre maximum avec l'hiver. Peut-être la prise en charge aussi de nombreux cas de grippe qui vont se rajouter à la prise en charge Covid. On donne un état assez fragile, donc il faut faire très attention.
13 nouveaux lits Covid vont donc être créés d'ici cette fin de semaine, mais comme cela ne suffit pas, c'est aussi le fonctionnement classique de l'hôpital qui a dû être chamboulé.
Depuis une quinzaine de jours, nous avons arrêté toute l'activité programmée. Donc il n'y a plus que les urgences, les patients qui sont chroniques comme les patients de cancérologie, tous ceux qui risquent une perte de chance s'ils ne sont pas pris en charge rapidement. Et tous nos moyens sont donc d'abord prioritairement concentrés sur la prise en charge du Covid.
Montbrison est donc un hôpital en tension avec des soignants épuisés qui espèrent beaucoup des mesures drastiques que va annoncer ce soir Emmanuel Macron. Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Face au spectre du reconfinement, les entreprises s'organisent. Elles vont devoir se remettre au télétravail à grande échelle, alors même que la reprise de l'activité économique est encore fragile.
Clément Le Saffre, bonjour.
Bonjour.
Alors les entreprises sont-elles prêtes pour ce télétravail à grande échelle ?
Bien, nous en avons appelé beaucoup ces derniers jours et ce qu'on peut dire, c'est que la situation est très hétérogène. D'un côté, il y a les grandes entreprises qui ne sont pas inquiètes. En mars, elles ont dû déployer en quelques jours le télétravail pour des milliers de salariés. Une expérience qui leur a servi de crash test, nous disent-elles. Dans les secteurs de l'assurance et de la banque, par exemple, tout est prêt. Chez BNP Paribas, 60% des salariés sont encore en télétravail aujourd'hui, au moins à temps partiel. Donc aller plus loin ne représentera pas un effort considérable. Certains groupes ont aussi mis en place une cellule dédiée à l'organisation du travail en temps de Covid. Objectif, réagir le plus vite possible en cas d'annonce du gouvernement. C'est le cas chez Orange. On a mis 60 000 personnes en télétravail au printemps. On le refera sans problème s'il le faut, nous dit-on.
Alors ça, c'est pour les grandes entreprises. Et dans les petites, comment est-ce qu'on perçoit les annonces à venir ?
Mais les PME, elles font plutôt grise mine à l'idée de repasser en télétravail total. Dès que ça a été possible, elles ont fait revenir leurs employés sur site pour relancer leur activité. Et pour beaucoup, eh bien, la crainte, c'est que le télétravail vienne casser la fragile reprise entamée à la rentrée. Malgré tout, à contre-cœur ou pas, toutes les entreprises nous le disent, elles s'adapteront. Et selon un sondage réalisé pour Europe 1 par le Centre des jeunes dirigeants, un tiers des entreprises qui peuvent passer en télétravail, anticipe déjà de repasser entièrement dans cette forme d'organisation dans les prochains jours.
On le comprend, les entreprises vont essayer de s'adapter. Ça pose quand même la question de l'impact sur les salariés.
Oui, c'est la priorité pour tout le monde. Le télétravail a marché en mars, mais tout le monde ne l'a pas bien vécu pour autant. Et selon le vice-président de l'Association nationale des DRH, Benoît Serre, il va falloir être encore plus vigilant cette fois-ci.
Ces mesures, quelles qu'elles soient, vont se poser sur des collaborateurs, et nous on le voit fatigués. Beaucoup de collaborateurs, ou certains d'entre eux en tout cas, ont mal vécu le confinement. Pour des raisons de manque d'interaction sociale, de solitude, d'inquiétude avec les enfants, avec les parents, avec tout le monde. Donc, ce qui nous inquiète, c'est le risque social au sens burn-out, fatigue, épuisement, peur, crainte, anxiété, pas que sanitaire, sur l'emploi, sur demain, sur le futur, sur l'avenir.
Et là encore, eh bien c'est dans les petites entreprises qu'une deuxième séquence de télétravail généralisé risque de laisser des traces. Une étude menée par la CPME cet été l'a montré très clairement. Pour plus de 80% de patrons de PME, le télétravail limite la cohésion d'équipe et augmente le risque d'isolement de leurs salariés.
Une enquête Europe 1 que vous signez, Clément Le Saffre, et à retrouver ce dossier déjà sur europe1.fr. 7h09, la tension est à son comble entre la France et la Turquie. Dernier épisode en date, la publication en une de Charlie Hebdo d'une caricature du président Erdogan.
Ankara accuse l'hebdomadaire satirique de répandre haine et racisme culturel. Cette caricature est le résultat du programme anti-musulman du président français, accuse le principal conseiller pour la presse d'Erdogan. Et la colère gronde dans plusieurs pays musulmans après les déclarations d'Emmanuel Macron sur la liberté d'expression. 40 000 personnes ont manifesté hier au Bangladesh pour appeler au boycott des produits français. Manifestation aussi à Ramallah, dans les territoires palestiniens occupés. Clodilde M. Rafko.
Ils sont quelques dizaines autour d'un drapeau français en feu, à piétiner des portraits d'Emmanuel Macron. Hommes et femmes crient leur colère. Ils se sentent attaqués depuis que le président français a appelé à continuer les caricatures de Mahomet. On peut toucher à tout, sauf à notre prophète, explique Tasnim, une étudiante palestinienne de 20 ans.
Il nous a brisé le cœur en faisant ça. C'est notre devoir de défendre le prophète.
En face, Ramadan, 23 ans, acquiesce.
Ce n'est pas contre le peuple français, les Français sont des gens bien, mais c'est pour protester contre l'insulte qui nous est faite.
Dans les rues alentours, quasiment tous les commerçants ont arrêté de vendre des produits français, comme Firas, qui sort des petites briques de lait du fond de son échoppe.
Voilà, Candia. J'ai demandé à mes fournisseurs de venir les reprendre. Je n'en veux plus. L'islam respecte la liberté d'expression, mais ta liberté s'arrête là où commence celle des autres.
Ces derniers jours, le mouvement a pris de l'ampleur et des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes de Cisjordanie, à Gaza et même devant l'ambassade de France à Tel Aviv. Ramallah, Clotilde Mravko, Europe 1.
Direction les États-Unis. À 6 jours de l'élection présidentielle, Donald Trump enchaîne les meetings.
Il en est à 3 par jour. Hier, le président américain était dans le Wisconsin, dans le Michigan aussi. Donald Trump qui s'est dit excédé de voir la campagne dominée par la pandémie de Covid-19. Pour lui, les électeurs auront le choix mardi prochain entre une super reprise Trump ou une dépression Biden. Il veut tous vous enfermer à nouveau, a-t-il insisté.
7h11, en France, les recherches se poursuivent dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
Sans aucun résultat. Pour le moment, depuis lundi, Michel Fourniret et son ex-femme Monique Olivier sont dans la région de Charleville-Mézières. La juge chargée du dossier espère raviver les souvenirs du tueur en série en le ramenant sur les lieux de la séquestration et de la mort de la petite fille en 2003. Lionel Gougelot, bonjour. La juge a donc mis en place une méthode très précise.
Oui, en fait, à chaque échange avec Michel Fourniret, la juge Kerry s'avance à petits pas. Ici, dans les Ardennes, elle tente patiemment de reconstituer avec le tueur en série la chronologie du jour où il a caché le corps d'Estelle. Et en remettant Fourniret en situation dans sa propriété de Ville-sur-Lume, elle espère stimuler sa mémoire, déclencher des souvenirs, lui permettant de retrouver le trajet jusqu'à l'endroit où la fillette a été possiblement enterrée. Pour cela, la juge lui montre des points identifiés sur une carte des environs et en fonction des réponses de Fourniret, l'important dispositif de recherche de la gendarmerie se déplace sur les lieux. C'est ainsi que Fourniret a été amené dans un cimetière près de Charleville lundi soir ou près d'un étang dans un village voisin hier après-midi. Pour l'heure, il faut bien constater que le déclic n'a pas eu lieu. Même si Fourniret semble ouvert au dialogue avec la juge et les enquêteurs, il reste très fragile, diminué sur le plan neurologique et rien ne dit à ce stade que le déplacement sur d'autres lieux qui lui furent familiers lui feront retrouver la mémoire.
Lionel Gougelot pour Europe 1. Et puis, un mot de football. Déplacement sous tension pour le Paris Saint-Germain qui affronte Istanbul ce soir en Ligue des Champions.
Un fort dispositif de sécurité a été mis en place autour du club parisien en vue des tensions entre la France et la Turquie. Autre match au programme aujourd'hui, Rennes face à Séville. Hier, Marseille a été corrigé 3-0 par Manchester City. L'entraîneur phocéen Villas-Boas, très critiqué pour son schéma tactique, a pris une leçon face au maître Pep Guardiola. Il avoue son impuissance.
City, c'est une équipe qui joue très bien, qui a un coach qui est un phénomène, qui a joué toujours possession du ballon avec Bayern, avec Barcelone, avec City. Malheureusement, Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola ici. Si tu as Guardiola ici, un jour tu peux avoir Marseille et avoir précisément ça. Mais bon, malheureusement, vous avez AVB avec cette tactique et il essaye de faire le mieux possible pour l'équipe.
Des propos recueillis par Romain Boselli, AVB. Vous l'aurez compris, c'est le surnom de l'entraîneur de Marseille, Villas-Boas.
Merci beaucoup, Émilie. Il est 7h13, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un deuxième conseil de défense doit donc se tenir aujourd'hui autour du président Macron. La question d'un reconfinement semble inévitable au vu des chiffres catastrophiques de contamination. Plus de 500 morts hier. Alors le monde du travail va devoir se réorganiser à nouveau. Les entreprises survivre. François Asselin, le président de la CPME, à 8h15, il était avec Jean Castex hier soir. Les Français vont-ils adhérer à ces nouvelles mesures? Les accepter? Entendre que la deuxième vague risque de submerger nos hôpitaux? On en parle avec Rémi Salomon, président de la commission médicale de la PHP, invité du Tête à Tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco avec Daniel Fortin.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 7h15.
Et maintenant, l'éclairage éco vous est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Oui, mais c'est quand même le deuxième.
Nous sommes avec Daniel Fortin, rédacteur en chef des Échos. Bonjour Daniel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il a été le produit star d'épargne, le produit d'épargne des années 2000. Aujourd'hui, il suscite l'inquiétude du gouvernement. Le fameux PEL, le plan d'épargne logement qui est dans le viseur, en cause son taux d'intérêt beaucoup trop élevé.
Oui, sa rémunération moyenne est aujourd'hui de 2,65% à comparer avec le 0,5% du livret A. C'est donc une très bonne affaire pour les épargnants et une très mauvaise affaire affaires par contre pour les banques au moment où les taux d'intérêt sont à zéro. Chaque année, ça leur coûte 7,5 milliards d'euros. Ça n'est pas rien et la Banque de France a tiré la sonnette d'alarme cette semaine. Par les temps qui courent, les ressources bancaires doivent être utilisées pour financer l'économie, pas pour récompenser les rentiers. Voilà en substance le message.
Mais il n'est pas sévère ce message. Après tout, les épargnants n'y peuvent rien.
C'est en effet tout le problème. Malgré une modification à la baisse des taux en 2016, on a maintenu en vie un produit particulièrement généreux. Il continue à produire des intérêts chaque année, même si on ne verse plus d'argent dessus. C'est aujourd'hui une vraie bombe à retardement et elle est de taille, puisqu'avec 282 milliards d'euros au total, le stock de plans d'épargne logement est presque aussi élevé que celui du livret A.
Daniel Fortin, est-ce qu'il y a un risque de voir les conditions des livrets déjà souscrits modifiés ?
Alors pour l'instant, Bercy est prudent. Pas question de s'emparer d'un sujet aussi impopulaire qui relève d'abord du législateur, surtout au moment où les Français vivent une grave crise économique en raison de l'épidémie. Mais le sujet est sur la table et il est sûr qu'on y reviendra un jour.
Merci Daniel Fortin. Je lisais ce matin dans un très bon journal qui traite la presse économique que pour les livrets A signés avant 2011, hein, l'ancienne réglementation, on a des taux à 4,5 presque.
Et 4,4% exactement.
C'est surréaliste aujourd'hui. Absolument. Daniel Fortin, merci beaucoup. 7h17. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonne journée, bonjour à tous.
En Italie, nous sommes en Italie. Le gouvernement a débloqué 5 milliards d'euros pour les professionnels impactés par le couvre-feu instauré en fin de semaine dernière. Mais depuis samedi, les rassemblements de protestation se multiplient.
Oui, on pourrait croire à la révolte du pizzaiolo, la colère des restaurateurs, des patrons de bar condamnés à baisser le rideau de fer à 18h. Et puis derrière eux, les commerçants, les indépendants que le confinement du printemps avait fait basculer dans la précarité et qu'un nouveau confinement peut condamner à la faillite ou au chômage. Sauf que ce n'est pas une rébellion poujadiste qui a éclaté à Naples, qui a gagné Catane, Pescara, Viareggio, Lecce, Cremone et puis Milan, Turin. C'est la rébellion d'une Italie qui n'y croit plus. Qui ne croit plus aux mesures de prophylaxie, qui a perdu confiance dans le gouvernement. Des impatients, des furieux, des libertaires, des anti-vaccins, des énervés d'extrême droite, d'extrême gauche aussi, et même d'extrême centre, qui en ont assez des mesures infantilisantes et passablement inutiles. C'est un mouvement sans tête de gens qui descendent dans la rue et qui crient « Liberté !»
C'est le son de Rome que vous entendez hier soir. Et pourtant, la deuxième vague est bien là. Les chiffres sont catastrophiques.
Tous les clignotants au rouge vif, le pourcentage de tests positifs, le nombre de morts, le taux d'occupation en soins intensifs, la panique gagne. Elle a saisi le sud, jusqu'ici à peu près épargné, mais démuni d'équipements hospitaliers. Et le nord, d'autant plus accablé qu'en septembre, il croyait échapper à la seconde vague. Le gouvernement veut sauver Noël. Eh bien, ce Père Noël passe pour une ordure d'avoir ordonné le couvre-feu et le bouclage pour un mois de tous les lieux de spectacle.
Sauf le foot.
Oui, parce que hier soir à Bergame, il y avait la ville martyre aux 7000 morts. Rappelez-vous les cercueils emportés par les convois militaires. Eh bien, Bergame a pour la première fois accueilli son équipe, devenue la meilleure d'Italie, pour un match de la Ligue des Champions, l'Atalanta, dans son stade entièrement rénové, en moins de 3 mois, le stade. Hein, le symbole de la résilience.
Vous avez entendu les cris « Liberta, Liberta ». Écoutez aussi ce qu'on chantait dans les rues de Rome hier soir. L'hymne italien, vous parliez de football. Nous, on a l'habitude de l'entendre sur les terrains de foot. Voilà la manifestation, la mobilisation.
2-2 contre l'Ajax Amsterdam.
Merci Vincent Hervouet. C'est très beau match, me dit-on dans le casque. Je ne l'ai pas vu. Il est 7h19. À suivre. Tiens, du football, justement. Quoique, Ligue des Champions ce soir, le PSG se déplace à Istanbul. Finalement, c'est plus de la politique que du foot. L'instrumentalisation du foot doit cesser, le coup de gueule de Virginie Fulpin dans l'édito sport. Juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern, et l'expression du jour est appropriée plus que jamais. J'espère au moins que ça va vous faire sourire. On n'est pas sorti de l'auberge. À tout de suite.
Mathieu Béliard.
7h22, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le PSG joue à Istanbul ce soir contre Başakşehir en Ligue des Champions. En pleine crise diplomatique entre la France et la Turquie, le club turc est soutenu par le président Erdogan. Il veut en faire une vitrine. Pour vous, c'est une instrumentalisation politique du football et c'est insupportable.
Mais moi j'ai envie de voir un match de foot ce soir, pas une bataille diplomatique. On dit que Başakşehir rêve d'infliger un revers au PSG pour donner donner une leçon à la France. Mais qui a dit ça? On se croirait au temps de la guerre froide, vous savez, quand la Hongrie faisait de sa brillante équipe de foot des années 50 le symbole conquérant du bloc communiste. Bah oui, sauf que la légende Puskás a quitté son pays en 1956. Il n'était pas exactement un porte-parole consentant. Je ne suis pas sûre non plus que les joueurs de Başakşehir veuillent punir la France. Ils ont envie de battre le PSG, oui. Mais arrêtons de leur faire endosser un rôle qu'ils n'ont pas. Parfois, les sportifs représentent plus que leur sport, c'est vrai. Pour la Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud en 1995, le pays tournait la page de l'apartheid et les Springboks incarnaient ce changement. Là, oui, nous en France, quand on a mis l'étiquette Black Blamber à nos champions du monde 98, c'était déjà plus artificiel, hein, pas exactement la réalité du pays.
En ce moment, ça va beaucoup trop loin, cette instrumentalisation.
Ben, on finit par raconter n'importe quoi. Regardez ce qui s'est passé avec Paul Pogba. Une fausse information disant qu'il arrêtait sa carrière internationale pour protester contre les propos d'Emmanuel Macron sur l'islam. Il a dû démentir et porter plainte. Là encore, les sources, avec beaucoup de guillemets, du tabloïd anglais Le Sun, ont voulu faire endosser à Pogba un positionnement qui n'est pas le sien. Et si on laissait les footballeurs jouer plutôt? Ce soir, j'ai pas envie qu'on demande aux joueurs du PSG s'ils soutiennent le Qatar ou la France dans la crise actuelle. Je suis pas sûre non plus que les joueurs turcs soient tous sur la même ligne que leur président. Le club qui va gagner ne le fera pas au nom des intérêts de la France ou de la Turquie. Pour une fois, j'ai envie de dire que l'important, c'est les trois points.
Merci, l'important, c'est les trois points. Je le retiens cette fois. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport. Il est 7h24. Et comme tous les matins, nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Parfois, face au Covid, à la situation sanitaire, face à la réponse de l'État, aux errements de la médecine devant ce virus, il peut nous venir une expression de découragement. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge.
Ça c'est sûr, il va falloir de la patience. En attendant, d'où vient cette expression?
Mais comme toujours Mathieu, il y a deux origines différentes. La première vient de l'argot du 19e siècle. L'auberge désigne la prison et quand on a de graves ennuis judiciaires, effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge. La deuxième origine vient d'une affaire criminelle dont vous pouvez d'ailleurs retrouver le récit détaillé dans un podcast raconté par l'ami Christophe Ondelat sur europe1.fr. Nous sommes le 2 octobre 1833, 30 000 personnes se pressent à Privas en Ardèche. Là, deux hommes et une femme vont avoir le cou tranché en public. Le roi Louis-Philippe Ier ne les a pas graciés et la guillotine est installée dans la cour de leur propre auberge. Le propriétaire, sa femme et le domestique ont été déclarés coupables d'un seul meurtre. Mais si la justice n'a pu prouver qu'un seul homicide, c'est plus de 50 personnes qui auraient été trucidées par le trio diabolique. Le mode opératoire est toujours le même. Des touristes, loin de leur domicile, sont surpris dans leur sommeil. Les murs des chambres sont peints en rouge pour mieux dissimuler les traces de sang. Voilà, vous comprenez pourquoi cette histoire a marqué les esprits et que près d'un siècle plus tard, quand on est en galère, on s'exclame encore, ben on n'est pas sorti de l'auberge.
Stéphane Bern, on va vous retrouver à 16h dans Historiquement Vôtre. Quel est le programme aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, on réunit trois cocus et pas très contents. Le marquis de Montespan, Napoléon Bonaparte et Will Smith, dont sa femme a avoué en direct sur un plateau de télé l'avoir trompé alors qu'il était lui-même l'invité de son émission.
Chic.
Bref, on vous raconte l'histoire sans en faire toute une histoire. C'est tout à l'heure, 16h-18h, avec Mathieu Noël sur Europe 1.
À tout à l'heure Stéphane. Vous restez bien sur Europe 1. Laurent Cabrol, La Météo et Sophie Echen pour un nouveau journal. À tout de suite. 7h28, quand on vous parle ce matin de reconfinement, ça vous rappelle évidemment le mois de mars. Laurent Cabrol a fait très fort, on a la météo du mois de mars.
Ah, pas mal. C'est vrai, c'est une météo de mois de mars, c'est une météo de giboulée. Alors hier, c'était une bonne perturbation qui a traversé la France. Et maintenant, nous en sommes giboulés sur la Normandie, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, la Lorraine, le Berry, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Bordelais, le Limousin et la Bretagne. Si vous êtes dans ces régions, eh bien vous aurez, comme le disait à l'instant notre ami Mathieu, eh bien ce sera et un régime de giboulée. Alors, sur Paris, par exemple, parce que je n'ai pas cité la région parisienne, ce sera quand même mieux ce matin que cet après-midi. Et sur Lyon, c'est l'inverse, un petit mieux cet après-midi. Je ne sais pas si vous me suivez, mais enfin, sachez que j'essaie de cibler pour ceux qui ont envie de sortir, faire des courses ou un petit coup de peinture quelque part. Bon, sur le bassin méditerranéen, le soleil, tout... Le soleil toute la journée, pas de peinture, je suis fou moi. Et puis si vous habitez l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, les Cévennes, littoral de la Manche, de la pluie, alors cette fois elle sera tenace, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Sur l'Alsace, les Vosges, la Franche-Comté, les Alpes du Nord, les éclaircies après le repas, température maximale entre 15 et 18 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un journal, nouveau journal, il est 7h30.
les déplacements privés, les déplacements hormis les quelques courses, hormis amener les enfants à l'école, je pense qu'ils vont être vraiment extrêmement limités. Et par rapport au ton du Premier ministre et des ministres, je pense que les mesures seront fortes.
Conviction largement partagée hier soir à la sortie de Matignon. On se dirige tout droit vers un reconfinement généralisé. Emmanuel Macron lèvera le suspense ce soir à 20h. Mais les Français sont-ils prêts à cette nouvelle épreuve? Nous poserons la question de l'acceptation dans ce journal. Et vous verrez que ce n'est pas qu'une question de génération. Les conséquences de la crise sur la restauration collective. Sodexo va supprimer plus de 2000 emplois en France. Et puis alors que Charlie Hebdo publie aujourd'hui à la une une caricature du président Erdogan, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Istanbul a rencontré des Turcs qui n'hésitent pas à parler de guerre de religion entre Paris et Ankara.
Juste après ce journal, l'épidémie hors de contrôle et les hôpitaux qui commencent à être surchargés. Rémi Salomon, président de la commission médicale de la PHP, dans le tête-à-tête Europe Matin. Les politiques, les scientifiques et nous, collectivement, nous sommes responsables de ce reconfinement à venir. L'édito politique de Catherine Ney. Juste avant, Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dans tous les cabinets ministériels, l'heure n'est déjà plus à l'hypothèse, mais aux modalités, le reconfinement généralisé approche à grands pas.
Et dans ce contexte, on voulait ce matin vous faire entendre ce témoignage. Il a connu les soins intensifs. Il a encore de lourdes séquelles au poumon, sauf qu'il n'avait rien d'un profil à risque.
Un Guillaume a 24 ans et ce matin, il lance un appel sur Europe 1 en s'adressant directement à sa génération, celle à qui on reproche de si peu respecter les gestes barrières.
J'ai envie de leur dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je suis passé à côté de la mort à cause du Covid. J'ai 24 ans, j'étais en bonne santé et demain, ça sera peut-être vous. Donc, juste, il faut une prise de conscience. Moi, aujourd'hui, à titre personnel, j'ai arrêté les soirées à 10, à 15. J'essaie de limiter les interactions. J'ai une interdiction pendant 6 mois de faire des efforts physiques. Je ne dois pas mettre mon cœur en danger, le faire battre trop vite. J'ai du mal à trouver le sommeil. Toute ma vie a changé à cause du Covid, quoi. C'est sûr que ça fait, c'est un effort qu'on demande à tous et même moi, je ne trouve pas ça très agréable. Mais finalement, c'est un moindre mal quand on peut rester en vie, quoi.
Le reconfinement pour rester en vie. Témoignage de Guillaume qui répondait à Victor Dolande.
Et si les réfractaires n'étaient pas ceux auxquels on penserait? C'est le paradoxe qu'on souligne ce matin sur Europe 1. Vous entendez, cet appel à la responsabilité. Ce jeune homme de 24 ans qui a frôlé la mort. Les seniors, eux, ne se disent pas tellement en faveur du reconfinement.
Et ce sont pourtant les personnes les plus à risque. Mais par-dessus tout, ils veulent conserver leur liberté. À Bordeaux, le reportage de Stéphane Place.
85 ans, portant soigneusement son masque, Edith traverse l'immense place Péberlan et cette octogénaire n'imagine pas se retrouver de nouveau cloîtrée chez elle.
On pense qu'ils essayent de nous protéger quand même, mais on n'a pas envie d'être confinés. Mais on peut prendre les précautions, le masque, la distanciation.
Rester enfermé, une perspective que Christian et Marie-France, fringants septuagénaires, ont également du mal à envisager.
Ils disent qu'on est à risque, bon, je veux bien l'admettre, on est plus faible qu'un jeune, je sais. Bon, déjà le soir on ne sort pas, je veux pouvoir sortir dans la journée quand même.
Il ne faut pas confiner tout le monde. Bon, on fait attention, beaucoup plus que les jeunes.
Un pays de nouveau à l'arrêt, ce sont des conséquences économiques qui inquiètent Claude.
En tant que retraité, c'est sûr que je ne me sens pas impacté, mais c'est plus pour vous, pour les travailleurs, entre guillemets. S'il n'y a plus personne qui travaille, qui est-ce qui va payer nos retraites?
Alors Madeleine, 83 ans, pourrait carrément accepter un reconfinement qui ne s'appliquerait qu'aux seniors.
Imposer aux jeunes de ne plus sortir parce qu'il faut protéger les vieux. Bon, quand même, nous, on a fait notre vie. Il faut qu'on accepte si on nous demande de rester chez nous parce qu'il faut que les autres vivent. Nous, on a fait notre vie.
Et pas par sacrifice, précise Madeleine, mais tout simplement parce que c'est dans l'ordre des choses. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Qu'avons-nous appris de la première vague? Reconfinement total pendant 4 semaines, reconductible. Télétravail renforcé dans les entreprises, mais cette fois, école ouverte. Nous serons donc fixés ce soir, 20h, allocution d'Emmanuel Macron que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1.
Et la France enregistre son pire bilan quotidien depuis avril avec 523 morts enregistrés sur la seule journée d'hier. Plus de 2900 malades du Covid sont hospitalisés en réanimation. La moitié des lits sont désormais occupés.
La crise sanitaire qui continue de plomber cette crise économique et l'emploi dans la restauration collective notamment.
Après Elior, au début du mois d'octobre, Sodexo annonce à son tour la suppression de 2083 postes en France. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour à tous.
Les cantines d'entreprise ont été désertées pendant le confinement, mais depuis, elles n'ont jamais pu refaire le plein.
En effet, nos habitudes de consommation ont fortement changé pour le déjeuner au travail. La raison est simple, le télétravail s'est développé ces derniers mois dans les grandes entreprises. On est passé d'une moyenne d'un peu plus d'un jour à environ 2 jours de télétravail. Et ça, mine de rien, ça change tout. Il faut s'y ajouter les normes sanitaires et son lot de places condamnées. Et puis la peur de certains de déjeuner à plusieurs. Du coup, les cantines se sont vidées dans les entreprises de service. C'est là où le télétravail est le plus développé. La fréquentation a chuté des 2/3 dans les cantines géré par Sodexo. Et les grands acteurs du secteur ne s'attendent pas, dans tous les cas, à un retour à la normale. Avec cette épidémie, nos habitudes vont évoluer sur le long terme, là encore principalement à cause du télétravail, qui pourrait bien devenir une pratique pérenne. Ce qui oblige Sodexo et les autres géants de la restauration collective à inventer de nouveaux modèles, comme des paniers repas ou des frigos connectés dans lesquels on pourrait trouver nos repas. Mais voilà, pour tout cela, il faut moins de monde sur site, d'où ces plans sociaux.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
7h35, la tension est toujours vive entre la France et la Turquie. Les propos d'Emmanuel Macron sur les caricatures de Mahomet ne passent pas.
Et Charlie Hebdo publie une caricature de Recep Tayyip Erdogan à sa une. Aujourd'hui, nous condamnons fermement la publication du magazine français qui ne respecte aucune croyance de notre président, a tweeté le porte-parole du gouvernement turc. Ce n'est pas une crise politique, mais une guerre de religion, estiment les soutiens du président Erdogan à Istanbul. Reportage de notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini.
En temps normal, Kemal n'interromprait jamais une partie de Rami. S'il le fait cette fois et réclame le micro, c'est parce qu'il tient à donner sa lecture de la passe d'armes Erdogan-Macron.
Il n'est absolument pas question de politique ici. C'est une question de religion. Presque une guerre de religion. Et je suis persuadé que ce qui anime notre président, ce ne sont pas des raisons politiques. Uniquement des motifs religieux.
Autour de la table, chacun triture nerveusement ses jetons. Hussein garde son calme et relance le débat.
Notre religion a été insultée. Cette religion, c'est notre plus grande richesse. Le président français a fait une erreur, une grosse gaffe, et il ne mérite pas notre pardon. Nous, on doit tout faire pour défendre l'islam.
La partie de Rami semble gâchée, elle s'achève avec une remarque pleine d'amertume. Nous n'en voulons pas aux Français, seulement à leur président. Istanbul, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et puis, pas d'excuses, mais des regrets de la part du Qatar après les examens gynécologiques forcés sur plusieurs passagères à l'aéroport de Doha au début du mois, après la découverte d'un nouveau-né abandonné. Une violation des libertés individuelles, reconnaît le gouvernement qatari.
Merci Sophie Echen, 7h37 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous attendez, nous attendons tous le président de la République ce soir à 20h. Vous l'écouterez sur Europe 1, bien sûr. Réaction, analyse ensuite avec Julien Bugier, édition spéciale, bien sûr. Le reconfinement semble acté, inévitable, mais beaucoup de choses restent à définir. Le soutien aux entreprises et la crise de confiance qui vient percuter notre économie. L'organisation du travail, du télétravail, on en parlait. Qu'a-t-on appris de la première vague? Il faut bien le comprendre pour les entreprises. C'est un véritable coup de massue. L'invité politique d'Europe Matin, François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il était avec Jean Castex hier soir. Il sera dans ce studio à 8h15. Vous l'entendiez dans nos journaux, les hôpitaux sont déjà pour beaucoup saturés et ce n'est pas localisé, c'est partout en France. Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Le tête-à-tête Europe Matin dans une minute. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h40. C'est le représentant des médecins de l'assistance publique hôpitaux de Paris qui est en studio avec nous, Rémi Salomon, l'invité du tête-à-tête.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Rémi Salomon.
Bonjour Mathieu Béliard.
Est-ce qu'on est vraiment surpris ?
Pas totalement. Hein. Je pense que depuis déjà 2-3 mois, on savait que le virus circulait. Cet été, il circulait doucement, mais il circulait. On avait des cas. Puis les cas sont devenus de plus en plus nombreux. Ça montait très lentement. Donc il y a eu des débats, il y a eu des polémiques qui n'avaient pas lieu d'être. Les épidémiologistes nous alertaient depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, depuis le milieu de l'été. Donc non, ça n'est pas une surprise. Ce qui est un peu inquiétant, c'est la vitesse maintenant. On a l'impression que le virus circule de plus en plus vite. Les indicateurs sont vraiment au rouge foncé. Malgré les mesures prises récemment, alors on est peut-être encore un tout petit peu juste pour savoir si elles font effet ou pas.
Oui, j'allais vous poser la question parce qu'on a annoncé très récemment un couvre-feu. On envisageait qu'il soit durci. C'était nécessaire, urgent, là, d'annoncer un confinement cette semaine.
Disons qu'au vu de la situation dans les hôpitaux, sur l'ensemble de la France, ce qui est différent de la première vague, là c'est partout, à des degrés divers, mais c'est partout, c'est grave, très très grave dans certaines régions, c'est grave un peu partout, c'est très grave en région Île-de-France. Donc au vu de ce qui se passe en ce moment dans les hôpitaux, on n'a pas le droit à l'erreur. Maintenant, il faut faire un coup de frein drastique à la circulation du virus. On ne peut pas tenter autre chose et se dire on va attendre 2-3 semaines pour voir si ça marche ou pas. Là, il faut vraiment faire le maximum.
C'est très important ce que vous dites. Le souvenir de la première vague, c'est la région Grand Est, très fortement impacté la région Île-de-France, ensuite d'autres départements. Là, c'est toute la France, c'est ce qu'on illustrait dans nos journaux, c'est toute la France qui est concernée.
C'est ce qui fait que cette deuxième vague, maintenant, il n'y a même plus de doute, on a pu tergiverser sur vague ou pas vague, c'était vraiment des bêtises. Donc c'est, la deuxième vague, elle est violente. Elle est plus violente que la première, hein, on l'a dit ces derniers jours. Plus violente pour la raison que vous venez de rappeler, c'est que c'est partout en France. Plus violente parce que on sait que les autres patients qui sont dans les hôpitaux, qui remplissent déjà les réanimations, les services, ceux-là, il va falloir qu'on, pour certains d'entre eux, qu'on reporte le soin. Et on sait, après la première vague, ce que ça veut dire. Ça veut dire des gens qui ne se sont pas fait soigner pendant 2-3 mois et qui sont plus malades après. Il faut rattraper le retard et ça a des conséquences. Donc ça, on le sait maintenant. Et donc, on va devoir faire ces choix-là, faire des priorisations. Pour ceux qui peuvent attendre sans trop de dégâts, on va essayer de reporter. Mais on sait qu'à certains moments, ça va poser un vrai problème. Donc c'est plus grave pour ça. Et puis, troisièmement, c'est plus grave aussi parce que les soignants commencent à s'épuiser. Et donc les soignants voient, après, même avant la première vague, vous vous souvenez, l'hôpital était déjà en crise. Il y avait déjà des postes vacants à la PHP, mais partout en France. Parce que depuis 10 ans, on fait des économies sur l'hôpital et ça a des conséquences sur les conditions de travail. Vous savez, quand on est soignant, on veut bien faire son travail. Et quand on n'a pas les moyens de bien le faire, au bout d'un moment, eh bien, il y en a qui s'en vont. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Je me permets de le rappeler un peu solennellement parce que c'est un risque pour moi, non seulement pour les semaines et les mois qui viennent, mais pour les années qui viennent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là, les soignants, ils vont y aller sur la deuxième vague, comme ils y ont été sur la première.
Oui. On va s'organiser. Ils vont y aller. On leur a demandé de reporter leurs vacances de la Toussaint.
Ils vont faire.
Rien de garantit qu'ils auront des vacances à Noël.
Ils vont faire. Je veux dire, quand les malades sont là, on les prend en charge. Je veux dire, quand on fait ce métier, on ne se pose pas de questions. Quand les patients sont là, on le fait et on essaye de le faire au mieux. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, à force de tirer sur la corde, elle peut casser. Et donc moi, ma crainte, c'est qu'un certain nombre de soignants, après une deuxième vague, pourraient se dire, là, c'est fini. Moi, je vais faire autre chose. Et là, quand ils partiront, ils ne reviendront pas de sitôt. On aurait du mal à s'en remettre pour les années qui viennent. Donc là, c'est un message que je me permets de faire au gouvernement. Les soignants attendent un message du gouvernement pour consolider l'hôpital. C'est important de consolider l'hôpital et le système de santé en général pour pouvoir faire mieux face au genre de problème qui arrive, mais au quotidien même.
Message pour le président de la République qui
Absolument.
Doit s'exprimer ce soir à 20h. Rémi Salomon, vous avez donné beaucoup d'interviews, vous ne vous en rappelez forcément pas. Moi, j'ai un souvenir. Lundi 16 mars, à quelques heures de l'annonce du premier confinement, vous étiez au téléphone avec moi dans la matinale d'Europe 1 à 8h30 et vous lanciez un cri d'alarme au lendemain des municipales. On est dans cette situation-là, là, je veux dire maintenant, à l'hôpital, on est dans cette situation.
Oui. Oui, j'avais effectivement été de ceux, quelques-uns, qui avaient dit qu'il ne faut pas aller voter. C'était la première fois. Et c'est vrai que je l'ai fait parce qu'il faut que le discours soit cohérent. Il faut que le discours soit cohérent.
Et donc justement, si je vous pose la question, Rémi Salomon, c'est qu'il s'est passé des choses depuis. On a des masques, on a des tests, on connaît ce virus beaucoup mieux. On sait beaucoup mieux le traiter. Comment se retrouve-t-on dans une situation où on perd le contrôle de l'épidémie ?
Alors, de toute façon, c'est difficile. Hein. Je veux dire, personne n'a la bonne solution. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous dire on a fait des erreurs, on a fait ci, on a fait ça. Le temps de l'analyse viendra après. Là, il faut vraiment, maintenant qu'on se serre les coudes, que chaque Français comprenne que c'est de sa responsabilité de ralentir la circulation du virus. C'est pour lui, mais c'est aussi pour les autres. Donc, j'en appelle solennellement à la solidarité de chacun, vous protégez, en vous protégeant et en ralentissant, en empêchant le virus de se transmettre de l'un à l'autre, vous protégez vos parents, vos grands-parents, vos voisins, etc.
Vous savez ce qu'il y a écrit là, juste devant moi, Rémi Salomon, il y a écrit « Donc on a raté le déconfinement ?»
Alors je pense qu'il faudra probablement aussi tirer des expériences de ce que l'on a fait ou de ce que l'on n'a pas fait. Donc probablement, au moment du déconfinement, quand viendra, hein, après cette période qui va durer je ne sais pas combien de temps, on ne sait pas, hein, un mois, deux mois, après cette période dure, il faudra déconfiner probablement plus prudemment, plus doucement. Il faudra rouvrir peut-être plus lentement les bars. Peut-être ce qu'on a appris. Finalement, avec ce virus, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. On a appris au fil du temps. Et quand on parlait de l'information tout à l'heure, beaucoup d'informations, beaucoup de polémiques, ça c'est mortifère. Ça brouille le message.
On en parlait hors antenne.
Les Français ne savent plus qui écouter, où est la vérité.
Mais
C'est un problème majeur. S'il n'y a pas de confiance, on ne maîtrisera pas bien la pandémie. Donc il faut que la parole, il faut éviter les polémiques et il faut savoir, quand on ne sait pas, il faut le dire. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, on apprend. Et donc, voilà. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui, qu'on ne savait pas bien au mois de mars, puisque vous rappeliez cette époque-là, c'est que le virus circulait dans l'air. Il circule dans l'air. On parlait surtout des postillons à l'époque. On disait, vous savez, donc c'est vrai, c'est les postillons, mais c'est aussi dans l'air. Et donc, il faut que, et on ne le dit pas assez, puisqu'on ne le savait pas bien. Quand on est dans une pièce fermée, Quand on est plusieurs, il faut absolument garder le masque. Il ne faut pas tomber le masque quand on parle. Il faut aérer. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, et c'est la différence aussi avec le mois de mars, c'est, ça ne vous a pas échappé, que les températures sont en train de baisser. Et ça, c'est un problème. Vous savez, il y a plus de grippe et plus de rhume l'hiver parce que ce sont des virus de ce type-là qui se transmettent par voie aérienne. Donc, il est important. Je pense qu'on va voir comment on confine. Il n'y a pas trop de risques à sortir dehors avec un masque, à se promener. Je pense qu'on peut se promener dans un parc. Par contre, il y a beaucoup plus de risques à se retrouver à plusieurs, chez les uns, chez les autres. Et ça, je pense, je m'adresse notamment aux jeunes, parce que c'est compliqué quand on est jeune de rester dans des appartements petits, hein, quand on est confiné, surtout quand on est dans le
mal logé. Quelque part, il vaut mieux laisser les parcs ouverts.
Il vaut mieux qu'ils sortent plutôt que de se retrouver les uns chez les autres.
Se retrouver à quatre dans un studio.
Oui.
D'accord, je comprends. Il faut qu'on tire les leçons de la première vague. Il faut qu'on tire les leçons du premier confinement, Rémi Salomon. Il est là aussi l'enjeu. Et j'insiste, vous soulignez l'enjeu du consentement. Là, on voit beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui sont sortis hier des consultations très en colère. On est sur un très très loin de l'unité politique. Il va y avoir des débats. Les Français n'ont pas forcément envie d'être reconfinés. Vous dites, il n'y a pas la place pour le débat.
Je pense qu'il n'y a pas la place pour le débat. Je pense que ce n'est pas le moment du débat. Il viendra à un moment donné, le débat. Hein, il faudra analyser. Je pense que ce n'est pas le moment. Le moment, c'est l'unité nationale. C'est que chacun prenne sur soi, comprenne les enjeux. Et les enjeux, c'est donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est se protéger, protéger les autres, c'est la solidarité. Et c'est protéger notre système de soins. Je l'ai dit aussi. Parce qu'il faut faire attention à ça. Si l'hôpital se casse la figure, demain, même si vous avez une appendicite, vous avez un mauvais rhume, vous avez une pneumopathie, peut-être que vous aurez du mal à trouver un hôpital où on vous pourra vous prendre en charge 365 jours par an, 7 jours par semaine et 24 heures sur 24. C'est un service public qui marche tout le temps, tout le temps. Et ça, il faut du monde et il faut des gens qui soient compétents et qui aient de l'expertise. Vous savez, aujourd'hui, dans les services même très spécialisés, le turnover, ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire le remplacement du personnel infirmier, s'est accéléré d'une manière qui est juste inacceptable. Moi, je connais des services hyper spécialisés où les infirmiers restent moins de 2 ans. Ça n'existait pas il y a 10 ans, vous voyez. Et ça, c'est un vrai problème en termes de compétences. Donc, c'est la qualité du soin qui est en jeu. Donc,
Et sur le long terme.
Donc, c'est ça aussi qu'on protège si on évite d'avoir une deuxième vague trop violente, parce que les soignants vont, au bout d'un moment, craquer.
Il faut que l'hôpital tienne notre système de soins et qu'il tienne sur la durée. La deuxième vague est plus violente que la première. Rémi Salomon, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Président de la commission médicale de la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il est 7h49. Le reconfinement arrive, on en parle. L'édito politique de Catherine Ney, la question de la responsabilité collective. Avant de retrouver Nicolas Canteloup, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1.
Tout de suite, retrouvez l'édito politique avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le président parle ce soir. On ne sait rien de ce qu'il va dire et pourtant on le sait déjà. Le couvre-feu nocturne était une demi-mesure. Le virus galope, les chiffres font peur.
Oui, devoir décider d'un reconfinement à quelques jours de la Toussaint pour un président, c'est comme annoncer au pays une forme de mise à mort. Une responsabilité effroyable, car des milliers d'entreprises qui résistaient vaille que vaille n'auront plus la force d'affronter un choc pareil une deuxième fois.
Et puis la période ajoute au tragique.
Oui, le premier confinement a duré du 17 mars au 11 mai. On se souvient de Paris, ville fantôme, sans piétons, sans voitures, sans bruit, sauf le chant des oiseaux, et du ciel, sans pollution. Une luminosité irréelle nimbait la capitale, c'était magique. Il n'a pas plu pendant 55 jours. On ne pouvait pas aller se promener en forêt, mais c'est une promesse de jours heureux pour l'été. Mais un confinement en novembre, quand les jours dégringolent, que le ciel est gris, ça c'est une plongée dans les ténèbres, c'est la désespérance annoncée.
Mais si c'est le cas, ce nouveau confinement, c'est bien parce que le président n'a pas le choix.
Oui, fini les demi-mesures, les chiffres sont catastrophiques. D'ici une semaine, on aura dépassé à l'hôpital le pic de mars. Et cette fois, c'est tout le pays qui est atteint. Le froid stimule le virus, qui est hors de contrôle. À Nîmes, on transfère des malades vers Toulouse ou la Bretagne. À l'hôpital, les soignants sont déjà épuisés. Et même si la France est hélas en tête du peloton pour le record de contamination, tous les pays européens subissent cette deuxième vague et reconfinent. En Allemagne, la chancelière s'apprête à dégainer des restrictions drastiques.
Jeudi, le Parlement devra se prononcer sur ces mesures. Certains dénoncent déjà le manque d'anticipation du gouvernement.
En juillet, le Conseil scientifique parlait d'une deuxième vague à l'automne qui risquait d'être plus dure que la première. Mais qui avait envie de l'entendre? Le 12 septembre, les premières alertes d'un retour de la pandémie étaient là. Le gouvernement sera obligé de prendre des décisions difficiles d'ici 8 à 10 jours maximum, tenait le professeur Delfraissy. On a tous râlé contre ce Cassandre. Un mois et demi plus tard, nous y voilà. On va accuser le gouvernement d'avoir perdu du temps.
Merci Catherine Ney.
C'était l'édito politique avec Chronopost. Chronopost, le partenaire des PME françaises à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup vient conseiller à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, je reçois François Asselin, président de la Confédération des PME, et c'est bien sûr le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui vient le coacher. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui. Bonjour Monsieur Béliard. Bonjour Catherine Ney. Ça va votre morale à tous les deux? Bon, mais profitez-en parce que ça va s'arrêter demain soir sur les coups de 20h, 20h30. Alors, une petite information, tiens, pour François Asselin, le président de la Confédération des PME. Eh bien, la CPME va devenir la CPTPEF.
Quoi ?
La Confédération des petites et très petites entreprises en faillite.
Toutes les entreprises vont souffrir, Bruno Le Maire ?
Toutes les entreprises. Ah non. Non, pas toutes. Achetez, je vous encourage, achetez des actions Amazon. Parce que, ah bah écoutez, un confinement juste avant Noël, ça va être une boucherie pour acheter les cadeaux. Ils vont se gaver, les salauds d'Amazon. Et l'action va encore tout péter. C'est un coup sûr, ça. Quelqu'un aurait un verre d'eau pour que je prenne mes Xanax.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière. Ils font sourire. Et c'est précisément les sujets dont on va parler avec François Asselin. Mettez-vous simplement une seconde, s'il vous plaît, à la place d'un magasin de jouets. Les gilets jaunes, la grève et maintenant le confinement. Comment on fait pour tenir sa boîte? François Asselin, patron de la CPME, dans ce studio à 8h15. Merci Nicolas Canteloup. La revue de presse à 9h moins le quart. 7h58, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, bien c'est une journée, disons, on l'a dit tout à l'heure, qui ressemble au mois de mars, puisque nous aurons des giboulées sur pratiquement toute la France. Pour certains d'entre nous, plutôt le matin, plutôt l'après-midi, ce matin, plutôt les éclaircies pour la région parisienne. Dans la région de Lyon, ce sera plutôt mieux cet après-midi. En Bretagne, Normandie, ce sera à peu près égalité, comme le Bordelais, le Limousin. Et puis, vous avez des endroits, des secteurs où les pluies seront un peu plus présentes, comme l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, les Cévennes, le littoral de la Manche, sur la Méditerranée ou en bord de Méditerranée, le soleil sera là. Les températures maximales, bon, donc il n'y a pas grand-chose à dire, chers amis, vous l'avez compris. C'est un temps d'alternance pratiquement pour nous tous. C'est ce qu'on appelle le ciel de traîne en termes techniques. Sur température 14 à 18, et dans les jours qui viennent, attention, elles vont bien grimper les températures. Nous allons atteindre des valeurs de 18 à 23 degrés, et même peut-être 25 vendredi au pied des Pyrénées. Voilà, pourvu qu'on ne soit pas confiné.
Laurent Cabrol, on attend 20h ce soir. Édition spéciale sur Europe 1. Merci Laurent.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h.
Quand on voit la contagiosité de cette maladie, eh ben obligatoirement, tu la retrouves aussi bien à la ville qu'à la campagne.
C'est la grande différence avec la première vague pointée par ce médecin d'un village alsacien. Le virus est partout. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron va annoncer ce soir un reconfinement généralisé. Dans ce journal, on vous révèle comment le chef de l'État a pris sa décision dès dimanche, bien avant les conseils de défense et les consultations hier à Matignon. Côté politique, beaucoup de reproches sur la méthode. Côté syndicat, une voix appelle à l'unité, celle de Laurent Berger, patron du premier syndicat de France.
Je commence à avoir un peu d'expérience. Rarement j'ai senti autant de gravité et de responsabilité. On se bataillera encore sur d'autres sujets, mais là, concentrons-nous sur notre responsabilité commune.
Et comment les Français vont-ils accepter ce nouvel isolement forcé? Vous entendrez qu'en Italie, les nouvelles mesures provoquent des émeutes. Dans ce journal, l'Amérique, élection présidentielle J-6 et direction le plus incertain des États-clés, dixit la presse américaine, la Caroline du Nord. Le vote des jeunes y sera décisif. Et puis, le Paris Saint-Germain, ce soir, face au FC Erdogan. Match ce soir contre Başakşehir Istanbul, club préféré de celui qui mène la fronde anti-française dans les pays musulmans.
Juste après ce journal, la question sanitaire, le débat politique et la question. Nos entreprises vont-elles survivre à un deuxième confinement? Mon invité était reçu par le Premier ministre hier soir. Il est sur Europe 1 ce matin. François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. À 8h15. Il est 8h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une replongée dans le huis clos du confinement et pour nous tous, allocution d'Emmanuel Macron ce soir, 20h à suivre sur Europe 1.
Nous voulons vous emmener ce matin en Alsace, dans un tout petit village du Bas-Rhin, 1200 habitants, qui résume à lui seul le choix du reconfinement généralisé.
Le virus est partout, loin des grandes métropoles et de leur capacité hospitalière, il frappe de plein fouet aussi les zones rurales.
Nous sommes ce matin à 40 km de route de l'hôpital de Strasbourg, Arthur Mbaché.
Grendelbruch, son église, sa supérette, son taux d'incidence supérieur à 1000.
C'est la merde. Vous pouvez être paumé là sur votre rocher à méditer en haut, ça peut vous toucher aussi.
Voilà, nous sommes une petite commune, hein, village de montagne. On devrait un peu être à l'écart de tout ça.
Ben moi j'ai des amis qui sont, oui, effectivement, qui sont positifs.
Chez le généraliste du village de Dr Stab, 0 cas du 11 mai, la fin du confinement, à il y a 10 jours, 40 cas. Depuis 10 jours.
Si vous êtes symptomatique, si vous avez des signes digestifs et que vous habitez actuellement dans le village, dans votre rue, il y en a plein. Donc, préfère vous conseiller de faire les tests tout de suite. Ok, allez, au revoir.
Quand on voit la contagiosité de cette maladie, eh ben, obligatoirement, tu la retrouves aussi bien à la ville qu'à la campagne.
Ville, campagne, tous égaux face au virus, pas tous égaux face au confinement qui peut-être se profile.
Ben, d'abord parce que le paysage, hein, je plains les gens qui ont un appartement, trois pièces, pas de balcon, un chien et trois enfants.
On a la chance d'avoir tous plus ou moins des maisons, hein, donc on peut sortir, on a des extérieurs.
Au pied du massif du Champ du Feu, dans la vallée de la Bruche, Arthur Mbaché, Europe 1.
Reconfinement généralisé aussi parce que la tension hospitalière s'aggrave. Ce matin, la moitié des services de réanimation est occupée, 2900 malades pour une capacité de 5800 lits. Vous avez entendu, hein, Rémi Salomon, mon invité, il y a une vingtaine de minutes, il faut que l'hôpital tienne la deuxième vague et pire que la première.
Et face à ce durcissement des mesures, deux sons de cloche très différents. Écoutez d'abord Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, reçu hier avec les partenaires sociaux par le Premier ministre Jean Castex.
Au sein de la salle, là, je commence à avoir un peu d'expérience. Rarement j'ai senti autant de gravité et de responsabilité. Et je crois que c'est le rôle de tous ceux qui exercent une responsabilité aujourd'hui, qu'elle soit politique, syndicale, économique, et même, j'ai envie de dire, médiatique, de ne pas essayer de mettre le doigt sur ce qui va nous diviser. Et il y a bien des sujets sur lesquels on peut le faire, mais de mettre le doigt sur ce combat qui doit être le nôtre aujourd'hui pour essayer de stopper, en tout cas freiner ce virus. On le doit à nos soignants. On le doit à tous ceux qui sont exposés, et ce n'est pas que des personnes âgées. Mais pour ça, il va falloir protéger ceux qui sont le plus en difficulté, que ce soit dans le monde économique ou dans la société, et je pense notamment aux plus fragiles et aux jeunes.
Tonalité différente chez les responsables politiques, eux aussi reçus par Jean Castex. Là, aucune unité. Ils en sont sortis très remontés.
Colère de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national.
Nous venons de vivre un voyage en absurdie, où l'on nous réunit pour nous demander notre avis sur des mesures que l'on ne connaît pas, des hypothèses que l'on ne connaît pas, tout en nous indiquant que le Parlement sera amené à les voter après que le président de la République les ait décidées et annoncées. Très honnêtement, c'est pas sérieux.
Alors cette colère est-elle justifiée? L'opposition a-t-elle été consultée? Il semblerait que non. Nous vous expliquons quand. Comment, par qui, la décision d'un reconfinement a été prise?
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
C'est une information Europe 1, vous nous le révélez ce matin, le choix d'Emmanuel Macron était arrêté depuis dimanche soir.
Oui, c'était donc dimanche soir, autrement dit 36 heures avant la première réunion du Conseil de défense. Ce sera donc un reconfinement généralisé pour une période de 4 semaines reconductibles, le scénario que tout le monde redoutait. La seule solution en vérité pour maîtriser efficacement cette nouvelle vague épidémique, comme me l'a confié un conseiller de l'exécutif. Une source qui souligne qu'un durcissement du couvre-feu n'aurait pas permis un freinage suffisant du virus dans un contexte de saturation totale des hôpitaux dès la mi-novembre. Autre argument qui a convaincu le président, un confinement localisé aurait été, je cite, une incohérence épidémiologique car tout le territoire est touché de façon plutôt homogène.
Et il s'est passé quelque chose d'assez inédit hier.
Oui, c'est une chose exceptionnelle. À 15h, c'est-à-dire 2h30 avant la consultation des partis politiques à Matignon, eh bien le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et le directeur de cabinet du Premier ministre, Nicolas Revel, ont organisé une réunion interministérielle d'urgence et pas n'importe où, dans le bunker souterrain de la place Beauvau. L'objectif était d'annoncer ces mesures aux plus hauts responsables des différentes administrations et de voir comment il fallait les décliner. Je peux même vous dire qu'on a évoqué la question des fleuristes. Doivent-ils rester ouverts jusqu'à la Toussaint? L'épineuse question des cultes, elle, sera abordée dans les prochaines heures avec les représentants des religions.
Les révélations de Louis de Ragnel pour Europe 1.
Alors, il y a un paramètre que nous ne pouvons pas pour l'heure mesurer, c'est pourtant essentiel. L'acceptation. Êtes-vous prêt, vous, à être confiné à nouveau? En Italie, en tout cas, les nouvelles restrictions passent mal.
Des milliers de personnes descendent chaque soir dans les rues des grandes villes avec parfois des heurts à Milan, Turin ces derniers jours et encore à Rome hier soir. Le gouvernement tente d'éteindre la colère et débloque en urgence 5 milliards d'euros d'aide.
Ce reconfinement d'automne pourrait moins paralyser la France qu'au printemps dernier. Vous l'entendiez dès le journal de 7h, les établissements scolaires resteraient ouverts avec protocoles sanitaires renforcés.
Tout comme certains commerces pour tenter de préserver au mieux la santé économique, des choix appelés à être tranchés aujourd'hui, second conseil de défense. Question également sur le télétravail, sera-t-il encouragé, voire imposé?
Et j'en parle à François Asselin dans quelques minutes, le président de la Confédération des PME.
Les annonces d'Emmanuel Macron, le durcissement des mesures face au Covid, allocution ce soir 20h, vous pourrez la suivre sur Europe 1, suivi de débats et décryptages autour de Julien Bugier.
8h07 sur Europe 1, Michigan, Wisconsin, Nebraska, mais aussi Washington et Las Vegas, Donald Trump enchaîne les meetings à un rythme effréné à 6 jours du scrutin présidentiel.
Joe Biden est élu en Géorgie, il a promis de s'atteler à contrôler le Covid dès le premier jour de son mandat s'il est élu.
Et nous restons dans le sud du pays pour notre carnet de campagne ce matin. Bonjour Théo Manval.
Bonjour à tous.
On sillonne les États-Unis depuis 10 jours avec vous et aujourd'hui, le vote des jeunes, les moins de 30 ans, ils pourraient bien faire basculer l'élection car contrairement à d'habitude, ils vont voter massivement. On le sait grâce aux chiffres du vote anticipé quasiment décuplé chez ces jeunes dans certains États, comme en Caroline du Nord où vous vous trouvez.
Oui, plus de 200 000 électeurs de moins de 30 ans ont déjà voté ici. C'est 8 fois plus qu'il y a 4 ans au même stade. Quand on tend son micro sur le campus de l'Université de Caroline du Nord, l'immense majorité des étudiants et étudiantes a déjà renvoyé son bulletin par anticipation. Alors pourquoi une telle mobilisation cette année? Peyton termine ses études de médecine.
Ça nous semble juste plus important, je crois. 2016 a été comme un réveil pour beaucoup, un rappel que notre vote compte vraiment, et que si on ne s'en sert pas, ça a des conséquences.
Pourtant, un tel élan n'avait rien d'évident ces derniers mois. Ici comme ailleurs, les cours sont passés 100% en ligne, le campus quasi vide pour cause de pandémie. Les partis n'ont pas pu faire leur recrutement habituel pour inscrire ces jeunes sur les listes électorales. Donc on a essayé de se débrouiller en ligne, explique la présidente des jeunes démocrates de l'université. Et ça a marché. Écoutez Bronwyn et Grace.
J'ai reçu des SMS de la campagne Biden, des mails, des appels aussi, pour me rappeler de voter, avec des liens pour s'enregistrer sur Internet. Pour moi, le Covid, c'est le plus important.
Pour moi, c'est l'égalité femmes-hommes et l'égalité raciale, la couverture santé universelle aussi. Beaucoup de choses doivent changer. Joe Biden est la meilleure alternative.
Vous l'aurez compris, les jeunes électeurs votent majoritairement à gauche. Grâce à eux, les démocrates rêvent de remporter la Caroline du Nord qui leur échappe depuis 2008. Sauf qu'en face, les républicains enregistrent aussi des records d'inscriptions sur les listes d'électeurs plus âgés dans des zones plus rurales que va chercher Sarah Reilly-Jones, militante du parti, dans l'ouest de l'État.
On continue le porte-à-porte, on va dans les lotissements parce qu'effectivement, on ne peut pas rester à la maison. On doit aller chercher les gens. C'est ça qui va faire la différence. La dernière fois, l'élection s'est jouée à 2 personnes par circonscription. Si on gagne 2 électeurs à chaque endroit, on peut faire basculer l'État.
Donc à qui mobilisera le plus dans les 6 jours qui restent pour remporter ce que la presse américaine a baptisé le plus incertain des États-clés.
Théo Manval, carnet de campagne de la présidentielle américaine tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
Théo, vos reportages et plus de détails encore photos à l'appui à retrouver sur europe1.fr.
Un match de football et un drôle de hasard. Ce soir, le Paris Saint-Germain joue en Ligue des Champions à Istanbul à l'heure de fortes tensions entre France et Turquie. Tiens, dernier épisode en date, la publication ce matin en une de Charlie Hebdo d'une caricature du président Erdogan.
Et qui plus est, l'adversaire du PSG pourrait être surnommé le FC Erdogan. Il s'appelle le Başakşehir Istanbul, tout jeune club pourtant champion de Turquie. Et il est souvent présenté comme le jouet du président turc, Axel May.
Le club porte le nom du nouveau district d'Istanbul où il est implanté, un quartier connu pour soutenir la politique conservatrice décomplexée de Recep Tayyip Erdogan. Lui, qui fut maire d'Istanbul dans les années 90, aurait sans doute préféré mettre la main sur l'une des 3 équipes historiques de la ville, Galatasaray, Fenerbahçe et le Beşiktaş. Mais Başakşehir, qui bénéficie depuis plusieurs années du soutien financier de proches du pouvoir, a pu attirer des joueurs de renom comme Emmanuel Adebayor, Gaël Clichy, Robinho. Enseignant à Sciences Po Rennes, Jean-François Polo est un fin connaisseur du football local.
Il a été acquis par un groupe privé, mais en effet ce sont des proches de Erdogan qui ont pris la direction. Donc c'est un club dans lequel il peut être présent sans risquer d'être contesté. Ce qui s'est passé dans les grands clubs d'Istanbul. Mais oui, il a l'impression d'être un petit peu chez lui dans ce club.
À tel point que lors de l'inauguration du nouveau stade, il y a 6 ans, Recep Tayyip Erdogan avait troqué son costume politique pour une tenue de footballeur, inscrivant un triplé face à une défense particulièrement passive.
Başakşehir, Istanbul, Paris Saint-Germain. Coup d'envoi 18h55. Également ce soir, Rennes joue à Séville, chez le FC Séville, à 21h. Et puis hier soir, nouvelle défaite des Marseillais, battus 3-0 à domicile par Manchester City.
Merci Jérôme Lacroix. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h12. Et simplement, quand j'entends que l'épidémie est hors de contrôle, quand j'entends avec vous que le président va annoncer un nouveau confinement ce soir, eh bien je repense tout simplement à cet échange que j'avais eu avec Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Je la recevais sur Europe 1 le 1er octobre, il y a quelques semaines. Elle soutenait l'idée d'un nouveau confinement, de 2 à 3 semaines pour reprendre le contrôle, reprendre la main.
De prendre un petit peu de l'avance, non seulement sur le virus, mais sur notre organisation vis-à-vis du virus, permettrait qu'un épisode de confinement ou de réduction de l'activité soit beaucoup moins difficile, à la fois psychologiquement, parce qu'on sait exactement quand ça commence, quand ça se termine, et économiquement, parce qu'on pourrait organiser les choses autour.
Elle avait été brocardée il y a un mois pour avoir osé dire qu'il fallait peut-être reconfiner. Et nous y voilà. Vous retrouvez l'interview, d'ailleurs, les échanges avec Esther Duflo sur Europe 1.fr.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, l'invité politique de la matinale. Vous l'avez compris, l'arbitrage entre santé et économie, les entreprises au maximum de l'inquiétude ce matin. Les entrepreneurs, je sais qu'ils nous écoutent là. Va-t-on rassurer? Ça, je ne sais pas. A-t-on appris du premier confinement? Notre économie peut-elle sortir la tête de l'eau malgré la deuxième vague? Dans un instant, François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h16 sur Europe 1. L'invité politique de la matinale, c'est François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour François Asselin.
Bonjour Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1 ce matin. Vous étiez reçu hier soir avec d'autres partenaires sociaux par, oui, Jean Castex. D'abord, ce matin, vous confirmez, c'est un nouveau confinement qui vous a été présenté?
Oh, ce qui nous a été présenté, c'est la situation sanitaire avec l'évolution de la pandémie qui, évidemment, n'est pas bonne. Et si nous ne faisons rien, eh bien, nos hôpitaux, ça a été clairement annoncé, se retrouvons dans une situation aussi compliquée, sinon plus compliquée que celle qu'on a connue pendant la période de confinement. Donc, il faut réagir sur le champ de la pandémie. Et puis, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut réagir sur le champ de l'économie.
Mais qu'est-ce qui vous a été dit sur ce qui va se passer ?
Il nous a rien été dit. Il nous a été dit simplement que le gouvernement avait plusieurs scénarios devant lui et qu'il allait devoir choisir. Et par rapport à l'exposition de l'évolution de la pandémie, eh bien, il attendait, entre guillemets, la réaction de gens comme moi, qui leur ont dit, écoutez, c'est pas compliqué. Maintenant, on approche des fêtes de Noël. Imaginez que nous soyons confinés. Les magasins alimentaires vont rester ouverts. Tous les autres magasins dits qui ne sont pas de première nécessité fermeraient. Je parle au conditionnel. Vous imaginez, vous, votre caviste, voir ses clients partir à la grande surface parce qu'elle a les magasins alimentaires. Vous imaginez voir votre magasin de jouets indépendant, voir ses clients partir au supermarché parce que lui, il est fermé. Donc, il faut prendre en considération toutes ces choses-là. Et si nous devions en arriver là, ce que je ne souhaite absolument pas, parce que comment expliquer par exemple qu'on se contamine moins dans un supermarché que dans un commerce indépendant? C'est difficile à argumenter, il faut bien le comprendre. Alors oui, j'ai compris qu'il ne fallait pas se déplacer, parce que c'est là où effectivement le virus peut circuler. Mais en attendant, si jamais on doit en arriver là, eh bien il faut que le gouvernement aille jusqu'au bout sur les mesures de soutien. Je pense aujourd'hui vraiment d'une façon très intime à tous ces indépendants, à tous ces entrepreneurs, à tous ces commerçants qui s'attendent à une sorte de couperet. C'est quoi? C'est-à-dire qu'ils se disent, mon seul horizon, c'est de déposer le bilan. Et quand vous déposez le bilan, que vous êtes indépendant, vous n'avez plus rien. Il vous reste vos dettes et vous n'avez plus de revenus. Donc, comment fera-t-on demain pour relever notre pays si les entreprises sont moribondes? Ça fera pchit la relance. Donc, il faut maintenant que le gouvernement aille jusqu'au bout des mesures de soutien. Et là, il y a des choses à faire. Croyez-moi bien.
J'essaie de lire entre les lignes. D'abord, il y a un message que vous adressez à ces indépendants. Vous leur dites, ne broyez pas que du noir.
Exactement.
D'accord, ça c'est important.
Je leur souhaite une belle dose d'espérance, parce qu'il y a de quoi espérer malgré tout.
Et deuxièmement, là vous dites très clairement, président de la République qui doit s'exprimer à 20h ce soir, on va avoir besoin de soutien et d'un soutien fort, le quoi qu'il en coûte.
Oui, tout en sachant que le quoi qu'il en coûte, il a ses limites, parce qu'une entreprise qui était fragile avant cette période Covid, eh bien malheureusement, elle n'a pas beaucoup d'issue que de mettre les genoux à terre, et là, c'est un traitement humain qu'il faut faire. Vous savez, c'est protéger les salariés, protéger l'entreprise et protéger le chef d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise, quand il met le genou à terre, comme je vous le dis, il n'a plus de revenus. Donc, il faut avoir un traitement humain après du dépôt de bilan. Ça, c'est très important pour sauvegarder la personne humaine. Ça, c'est le plus important. Et pour le reste, il faut mettre tous les moyens en place pour faire en sorte que l'entreprise qui était viable avant la période Covid, eh bien, puisse rebondir après cette période terrible.
Alors, il faut être très clair là-dessus. Il y a eu beaucoup de choses présentées par le gouvernement ces derniers mois. Depuis le premier confinement, on a parlé énormément du chômage partiel, du prêt garanti par l'État. Il y a eu le plan de relance. Aujourd'hui, François Asselin, est-ce qu'il faut renforcer ces mesures, les prolonger, ou est-ce qu'il faut de nouvelles mesures ?
Deux choses. Soutien et investissement. Le soutien, c'est quoi ? Aujourd'hui, il faut élargir la boîte à outils des mesures de soutien. Plusieurs scénarios sont utiles pour la sortie du prêt garanti par l'État. C'est quoi ? Pouvoir avoir une année de franchise supplémentaire. À savoir qu'aujourd'hui, vous signez un prêt garanti par l'État et vous remboursez votre PGE un an après la signature.
Il faut pouvoir le rembourser d'avril pour les premiers.
Au mois d'avril pour les premiers. Il faut pouvoir le décaler d'un an supplémentaire. Que ça soit une option quasi automatique. Voilà, que ça soit prévu par la loi. Et ça, c'est possible. Il suffit simplement de faire sauter ce qu'on appelle le verrou de Bruxelles. Là, je compte sur le gouvernement pour faire en sorte qu'au niveau de Bruxelles, on puisse élargir cette période de franchise.
J'ai essayé d'être synthétique pour nos auditeurs. C'est que sinon, on estime que c'est une subvention indue de l'État.
C'est et cela.
Que c'est, voilà. C'est un soutien
abusif, etc. Bon, il faut concurrence déloyale, voilà. Et donc, il faut se battre là-dessus. Deuxièmement, il faut pouvoir prévoir des prêts de consolidation. Savez-vous qu'il y a une enveloppe de 300 milliards d'euros qui a été votée par le Parlement pour ce fameux prêt garanti par l'État ? 140 milliards d'euros vont être consommés à la fin de l'année. Il reste 160 milliards d'euros. Nous pourrions faire de ces 160 milliards d'euros des prêts garantis par l'État consolidés. C'est quoi ? Je regroupe toutes les dettes que j'ai dans mon entreprise et si mon modèle économique il est viable, je les étale sur 10 ans s'il le fallait pour pouvoir rebondir. Troisièmement, traiter le problème des loyers. Quand vous êtes fermé, malheureusement, vous continuez à avoir votre loyer que vous devez payer. Et parmi les bailleurs, vous avez l'ancien commerçant, vous avez parfois l'ancien artisan. On ne va pas leur priver leur retraite. Donc, il faut mettre en place un crédit d'impôt. Bruno Le Maire y travaille. J'espère que la solution qu'il doit poser très prochainement soit à la hauteur des enjeux.
Par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer ces derniers mois, ça, c'est la question qu'il va falloir régler très rapidement. Cette question des loyers et des assurances, François Asselin ?
Oui, alors ça fait 60 jours, 2 mois que nous avons posé nos propositions à la CPME. Crédit d'impôt et utiliser le dépôt de garantie pour au moins chinter 3 mois de loyer. Ça fait 2 mois que nous avons posé ces solutions. Donc, ce qu'il faut, et c'est là où, quelque part, on serait impardonnable, il faut, sur le champ économique, anticiper les mesures que le gouvernement doit prendre sur le champ pandémique.
François Asselin, j'ai 2-3 questions très précises. Catherine Ney me posait la question tout à l'heure. Je ne sais pas, les fleuristes, ils vont pouvoir ouvrir pour la Toussaint ?
Vous vous rendez compte, ne pas aller poser ces chrysanthèmes sur la tombe de ses aînés. Écoutez, j'espère que nous aurons une dérogation. J'en ai parlé hier soir, bien sûr, au gouvernement, en disant que c'est une journée qui est importante pour beaucoup d'entre nous, tous les Français. J'espère qu'on aura ces dérogations. Et puis, vous savez, si vous allez au cimetière, regardez parfois les dates de naissance et les dates de décès des gens que vous allez croisés au niveau des tombes, et vous allez vous dire, ces gens-là aussi en ont bavé. Quand il y a eu la guerre 14-18, quand il y a eu la guerre 39-45, eh bien on s'en est sorti, on a remonté. Eh bien j'espère que nous aurons le même courage que ces gens-là. Oui,
ça peut nous inspirer.
Alors, je pense, oui.
De l'autre côté de la pyramide des âges, moi je parlais des magasins de jouets. Je ne sais pas si c'est un commerce essentiel, un magasin de jouets. En revanche, je sais que la période est essentielle pour les magasins de jouets. Gilets jaunes, grève contre la réforme des retraites l'an dernier.
Ouais,
confinement maintenant. Moi, sincèrement, je tiens un magasin de jouets, je suis désolé. Hein. Je broie du noir, je mets la clé sous la porte.
Il y en a déjà qui ont mis la clé sous la porte, Mathieu Béliard. C'est ça le drame. Voilà. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est que nous ayons encore une vague terrible. Parce que vous savez, les magasins, c'est la vie de la cité. Hein, c'est vos centres-villes, c'est l'animation, c'est les lumières de Noël. Donc, il faut tout faire pour que ces lumières continuent à briller.
Quand le bâtiment va, tout va, dit-on en général.
Oui.
Et souvent, vous êtes en pointe, soit des crises, soit des périodes de reprise.
C'est pas faux, oui.
Le bâtiment, vous allez pouvoir sans doute maintenir vos chantiers ?
J'espère. On a besoin de tout le monde, vous savez, dans le bâtiment.
On n'a pas eu cette garantie-là ?
On n'a pas eu cette garantie-là, mais en tout cas, moi, je me suis battu ardemment pour que l'activité du bâtiment puisse perdurer. Vous savez, les chantiers sont par essence en extérieur. Et puis, si jamais nous sommes en intérieur, on a une jauge à respecter. On sait très bien que la transmission du virus ne se passe absolument pas sur les chantiers. Eh bien, continuons à pouvoir travailler dans nos chantiers, continuons à pouvoir travailler dans nos usines. Nous sommes, franchement, les Français, les les acteurs économiques sont franchement très respectueux des règles sanitaires. Ils respectent à la lettre le protocole. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, l'enjeu, il est terrible pour nous. Si vous développez un cluster dans votre entreprise, c'est la fermeture de l'entreprise, le temps de régler le problème. Donc autant vous dire que depuis le départ dans cette histoire, eh bien, je félicite franchement tous les acteurs économiques qui, avec beaucoup de courage et d'investissement, ont mis en place ces mesures sanitaires.
Je le disais, vous étiez reçu par Jean Castex hier. Vous avez aussi vu Bruno Le Maire, oui. Là ce matin. François Asselin, franchement, sur Europe 1, vous êtes soutenu, vous vous sentez soutenu par Bercy?
Ouais, écoutez, il y a une écoute. Hein. C'est-à-dire que Bruno Le Maire va réactiver la cellule de crise qu'il avait mis en place pendant la période de confinement. Donc on va avoir des réunions très, très, très régulières, hein, très resserrées. Et j'espère tout simplement qu'il y aura la même intelligence collective qu'il y a eu au moment du confinement, à savoir adapter les dispositifs en fonction de l'évolution de la situation. C'est pour ça que je vous dis, j'attends que les mesures d'élargissement et de scénario de sortie du PGE, les mesures sur les loyers, eh bien, soient maintenant activées. C'est urgent.
Il y a le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris dans le 20e, Gilles Pialoux disait il faut reconfiner et laisser tomber l'économie. L'économie est rattrapable, pas la réanimation. Il y a des voix qui disent ce matin, déjà, les médecins ont repris le pouvoir au détriment des forces économiques. Ça, vous le déplorez? Vous l'acceptez résigné?
Quelle question terrible. Pourquoi? Parce que, vous savez, moi j'ai l'impression, et c'est pas simplement franco-français, je m'aperçois que c'est partout dans le monde, j'ai le sentiment que comme on a peur de mourir, on choisit de ne pas vivre. Eh ben, moi, je suis plutôt comme beaucoup d'entrepreneurs. Je décide de me laver les mains autant qu'il faut. Je mets mon masque et je fonce. Et je vis.
On est au devant d'une grosse crise. Je vous posais la question sur le bâtiment parce que très bien, vous pourrez travailler. Reste la question des carnets de commandes. On va connaître une énorme crise de confiance. La deuxième vague. La première, c'était on arrête et on reprend là où on s'est arrêté. Mais beaucoup m'ont dit, pardon, au printemps, qu'on ne supporterait pas une deuxième vague, cette deuxième secousse. Est-ce qu'elle est tenable ? Est-ce que l'économie ne va pas s'effondrer tout simplement sous cette deuxième vague ?
L'économie ne s'effondrera pas si le gouvernement est à la hauteur des mesures de soutien dont les entreprises vont avoir besoin. Il y aura bien sûr de la casse, ça c'est sûr, hein, c'est parti. Hein, ne nous faisons pas d'illusions, c'est pour ça qu'il faut un traitement humain de la faillite, c'est clair, il faut penser au chef d'entreprise lui-même. Et pour le reste, eh bien, il faut soutenir tout ce qu'on a besoin de soutenir, parce que si demain vous n'avez plus ces profils de femmes et d'hommes courage qui ont cette belle capacité de se mettre à leur compte, hein, ou de reprendre une activité économique, comment relèvera-t-on le pays ? Il faut encourager la prise de risque. Il faut absolument faire en sorte que les personnes morales, les entreprises qui étaient viables, les soutenir pour qu'elles puissent rebondir. C'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer pour remonter économiquement la France. Et derrière l'activité économique, ben c'est les salariés qu'on embauche. C'est tout simplement la possibilité de se nourrir. Donc il faut se battre pour le travail comme il faut se battre sur le champ économique. C'est important de tenir les deux bouts de la ficelle. Donc moi, je ne peux pas me complaire dans un discours complètement hygiéniste en disant la santé d'abord et essentiellement, c'est un tout, vous savez cette histoire. Et c'est là où c'est extrêmement compliqué pour un gouvernement, eh bien, de choisir le bon timing, le bon niveau de curseur. C'est extrêmement compliqué. Je dis avec beaucoup d'humilité, je serai à leur place. Très sincèrement, que ferais-je ? Je ne sais pas. En tout cas, à la mienne, moi, ce que je vois, c'est qu'on aura besoin de ces profils de femmes et d'hommes pour relever la France. Et cela, il faut les soutenir. C'est impératif.
François Asselin, nous verrons ce qu'annonce le président de la République ce soir à 20h. Emmanuel Macron, vous l'écouterez sur Europe 1, édition spéciale bien sûr, et ensuite analyse, débat avec Julien Bugier. Nous verrons, cela dit, j'ai aussi entendu un message d'optimisme à l'adresse des entrepreneurs qui sont à l'écoute d'Europe 1 ce matin, de leurs employés aussi, hein. Il y en a beaucoup.
Exactement.
Et la question de l'emploi est essentielle. Merci François Asselin.
Merci Mathieu Belliard.
Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, ce matin sur Europe 1, 8h27.
Europe 1. Mathieu Belliard.
Dans un instant, l'info, le journal d'Émilie Dez, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Belliard.
Il est 8h30 sur Europe 1. Vous avez entendu François Asselin, le patron de la CPME. Il faut prolonger les aides existantes et régler absolument la question des loyers pour les entrepreneurs. C'était sur Europe 1 il y a quelques minutes. L'info avec vous, Émilie Dez. La France bientôt reconfinée.
Oui, c'est le choix fait par Emmanuel Macron qui va s'exprimer ce soir à 20h après un dernier conseil de défense. Ce matin, le reconfinement sera toutefois moins dur qu'au printemps dernier. Les écoles et les services publics devraient rester ouverts. Un nouveau tour de vis nécessaire au vu des chiffres de l'épidémie qui progressent. La moitié des lits de réanimation sont désormais occupés par des malades du Covid, soit plus de 2900 personnes. La deuxième vague, elle est bel et bien là. Pourtant, certains n'y croyaient pas et l'avaient fait savoir sur les plateaux télévisés. D'où la colère d'Axel Kahn, généticien et président de la Ligue contre le cancer. Il était ce matin sur Europe 1.
Au-delà du cas de Didier Raoult, il y a eu des médecins et même certains qui étaient un peu infectiologues, d'autres pas du tout, qui se sont mis à tenir des discours totalement désincarnés, totalement déconnecté de ce que 100% des indications, des marqueurs, des paramètres indiquaient sans aucune possibilité d'hésitation et ont indiqué qu'il ne convenait pas de prendre des précautions et qu'il n'y aurait jamais de nouvelles vagues. Ça finit par convaincre certains Français que puisque les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux, eh ben, il fallait pas trop s'en faire. Donc oui, ils ont joué un rôle qui est important et je suis un peu sévère. On ne peut pas se déconnecter des conséquences de ce que l'on a fait. Et si cela a amené à un moment donné les Françaises et les Français à ne pas prendre de précautions et donc sans doute un peu à hâter ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une nouvelle poussée épidémique d'une très grande intensité, honnêtement, moralement, ça n'est pas bien.
Axel Kahn au micro Europe 1 de Simon Rubin. Et si les médecins s'accordent désormais sur la nécessité d'un reconfinement, le consensus est moins évident du côté des représentants politiques. Ils ont été reçus hier par le Premier ministre Jean Castex. Mais on est loin de l'unité nationale du printemps dernier. Les chefs de parti ont eu le sentiment que leur avis importait peu lors de cette réunion, Claudia Bertram.
Tous en sont ressortis pour le moins agacés, voire outrés, comme la présidente du RN, Marine Le Pen.
Nous venons de vivre un voyage en absurdie, où l'on nous réunit pour nous demander notre avis sur des mesures que l'on ne connaît pas, des hypothèses que l'on ne connaît pas. On nous a demandé notre avis sur rien.
Quel que soit leur bord politique, ce qu'ils reprochent au Premier ministre de n'avoir présenté aucun des scénarios à l'étude, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS.
Nous avons malheureusement assisté à une forme de grand café du commerce. Nous aurions aimé connaître les différentes options qui étaient sur la table. Sur quoi travaille-t-il ?
Et cela fait dire au président des Républicains, Christian Jacob, que cette réunion était un simulacre.
On a bien compris que tout ça avait pour objectif de mettre en scène une concertation, mais ça donne ce sentiment d'improvisation, de panique, de manque d'anticipation.
Des réactions que ne comprend pas le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Je m'étonne que ceux-là même qui appelle à la concertation, et c'est normal, semble regretter que les décisions n'aient pas été prises avant même que les réunions se tiennent en leur présence.
Un ministre qui était à la réunion dénonce l'attitude de l'opposition. Ils sont irresponsables, objectivement, dit-il.
Claudia Bertram pour Europe 1.
C'est le nouvel épisode des tensions franco-turques. La publication ce matin d'une caricature du président Recep Tayyip Erdogan en une de Charlie Hebdo.
Ankara accuse l'hebdomadaire satirique de répandre haine et racisme culturel. Hier, 40 000 personnes ont manifesté au Bangladesh pour appeler au boycott des produits français. Des portraits d'Emmanuel Macron ont été brûlés dans les zones rebelles en Syrie, dans la bande de Gaza ou encore en Libye. Et puis en football, le PSG affronte Istanbul ce soir en Ligue des Champions. Un match qui se jouera dans un contexte particulier au vu des tensions actuelles entre la France et la Turquie. Un fort dispositif de sécurité a été mis en place autour des Parisiens. Autre match à suivre ce soir, Rennes face à Séville. Hier, Marseille a été battu au Vélodrome 3-0 par Manchester City.
Merci Émilie Dez. Il est 8h34 sur Europe 1. Laurent Cabrol, le temps avec vous.
En un mot, c'est un temps d'alternance. Nuages, éclaircies, averses avec parfois quelques orages. Les éclaircies sont plutôt, disons, dominantes à l'heure où nous parlons, mais ce ne sera pas le cas cet après-midi. C'est là que ça va se gâter. Je ne vais pas entrer dans le détail, je l'ai fait suffisamment. Et pour ceux d'entre vous, chers amis, qui nous rejoignent maintenant, sachez que les moins performants, si je puis dire, en matière d'éclaircies, seront les régions de la Manche, les Cévennes, le Midi-Pyrénées, les Landes et l'Aquitaine. Mais partout ailleurs, nous aurons à un moment ou l'autre de la journée de belles périodes de soleil avec des températures de 14 à 18 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, il est 8h35, vous êtes sur Europe 1 et dans un tout petit instant on prend soin les uns des autres, vous le savez, tous les jours dans Europe Matin avec notre santé, le docteur Jimmy Mohamed, notre planète Fanny Agostini, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Toutes les réponses à vos questions de santé à 8h37, c'est avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Jimmy, soyons honnêtes ce matin. La période est morose et nous attendons tous les annonces du président ce soir. Et est-ce que la baisse de la luminosité peut entraîner une petite dépression saisonnière ?
Alors oui, si jamais vous sentez d'humeur dépressive, si jamais vous avez une baisse de votre énergie, de la fatigue, vous avez du mal à vous concentrer, vous dormez un peu plus, vous mangez un peu plus avec des fringales de sucré, eh bien soit comme moi, vous avez des enfants en bas âge qui ne dorment pas la nuit, ou bien vous souffrez de dépression saisonnière. Alors en général, elle commence entre septembre et décembre et elle se poursuit jusqu'au mois de mars. Il y a une vraie explication à ça, c'est lié encore une fois à la désynchronisation de votre horloge biologique. Je vais vous expliquer. Lorsque lorsqu'il fait froid, lorsqu'il fait moche, on a moins de lumière. La baisse de la luminosité entraîne une augmentation de la production d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. Vous savez, l'hormone du sommeil. Et donc, vous allez plus dormir. Parallèlement à ça, cette hormone va avoir un effet sur votre humeur et vous allez sécréter moins de sérotonine, qui est l'hormone du plaisir. Plus de sommeil, moins de plaisir, égale petite dépression.
La solution viendrait alors d'une exposition, de s'exposer davantage à la lumière, de la luminothérapie ?
Oui, exactement, le principe est tout simple. S'exposer à une lampe qui va diffuser une lumière d'une forte intensité. Les experts recommandent environ 10 000 lux. Lux, c'est l'intensité lumineuse. À titre de comparaison, lorsque vous êtes dans une pièce qui est artificiellement éclairée, vous êtes aux alentours de 200 ou 300 lux. Donc il faut vraiment une forte intensité. Il vous suffit de 30 minutes tous les jours pendant 2 semaines pour avoir un effet sur votre humeur. Et ce traitement est véritablement efficace sur les dépressions saisonnières, ça fait des années qu'on le sait, mais ce serait aussi efficace sur les vraies dépressions, celles qui ne sont pas liées justement à la luminosité. Des études se sont intéressées à luminothérapie versus traitement antidépresseur, et bien les deux sont aussi efficaces. Et d'ailleurs, si on combine luminothérapie à traitement antidépresseur, et bien ça marche mieux que la luminothérapie seule. Je vous entends rire, Mathieu, j'espère qu'on ne se moque pas de moi. En ce qui concerne les appareils,
je vais vous dire, Jimmy, après.
Quel appareil acheter ? Et bien, sachez qu'il faut acheter un appareil qui est classé dispositif médical avec un marquage CE. Aucun effet secondaire. La seule chose, c'est contre-indiqué chez des personnes qui ont une pathologie de l'œil, évidemment. Et puis, Mathieu, si jamais vous achetez ce petit appareil, ne collez pas votre tête contre l'appareil. Je vous connais. Mettez-vous à 30-80 cm maximum de l'appareil. Vous verrez, vous vous sentirez nettement mieux.
Je cherchais la chute, en fait, Jimmy. C'est pour ça que je souriais. Est-ce que vous préférez la déprime et moins pénible au soleil, ou est-ce que vous préférez Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 ? On avait besoin de vos lumières ce matin. Merci, Jimmy. Et je reviens au sérieux, parce que je tiens aussi à attirer l'attention de nos auditeurs demain matin après l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir à 20h. Jimmy, vous serez à mes côtés, on a besoin de vous évidemment.
Oui,
en fil rouge pour une matinale spéciale entre 7h et 9h, nous reviendrons sur les annonces du président, les réactions bien sûr, les analyses. Rendez-vous demain matin en direct dès 7h. Il est 8h40. Notre planète avec Fanny Agostini, bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Alors vous nous dites ce matin Fanny que l'industrie de la fourrure est en train de se renouveler. Je ne vous reconnais pas.
Mais oui. Alors, il y a moins de lumière, comme le disait le docteur Jimmy Mohamed, mais il y a aussi l'hiver qui arrive, donc il va falloir se couvrir. Mais les visons, les renards et les chinchillas sont définitivement démodés. La cause animale l'emporte avec ces dernières années, l'industrie de la mode qui fait peau neuve en tournant le dos à la fourrure, voyez-vous, à la demande du consommateur qui ne veut plus endosser la responsabilité de la souffrance de ces pauvres écorchés. Chaque année, tout de même, la filière, rappelons-le, utilise 56 millions d'animaux pour la fabrication de manteaux, écharpes, couvre-chef, ce chiffre qui est en train de décroître très rapidement à mesure que la fausse fourrure gagne en popularité.
Oui, mais alors à quel prix pour l'environnement ? Et c'est là que c'est passionnant. Si je comprends bien, ce que vous nous dites, c'est que la fausse fourrure, ce serait même pire.
Pire, ou en tout cas pas mieux. Troquer de la vraie pour de la fausse, cela veut dire avoir recours au pétrole, oui, puisque les fibres entrant dans la confection des vêtements en fausse fourrure sont en acrylique, polyester, mot d'acrylique, une matière première qui s'apparente en fait à de petites granules de plastique que l'on va porter à très haute température et que l'on va enrubaner, comme on le ferait avec une barbe à papa. Les longs filaments sont ainsi des poils, enfin de faux poils, que l'on va tondre en fonction de la longueur souhaitée. À noter que ça a l'avantage de coûter bien moins cher que la vraie fourrure, la vraie peau animale, mais ça pollue à fond. Les procédés employés sont chimiques et les résidus terminent dans la nature, contribuant à étoffer la collection de microplastiques qui arrivent dans les océans.
Donc plus de vraies fourrures, pas de fausses non plus. Et tout ça, l'industrie de la mode en prend conscience, hein.
Alors, c'est très récent, Mathieu. Certaines entreprises offrent aujourd'hui de nouvelles alternatives, se voulant jusque boutistes pour aller vers plus de durabilité dans les matériaux employés. Beaucoup se vantent d'ailleurs de recycler du plastique pour faire de la fourrure, mais ce n'est pas la solution la plus optimale, comme je viens de vous l'évoquer. En revanche, une piste très intéressante qui est en train de naître, c'est la fourrure végétale, avec des marques comme Ecopel qui ont mis au point des matières bluffantes de réalisme avec des résidus issus de cultures agricoles comme le chanvre. Ainsi, plus besoin d'écorcher les animaux, ni de détériorer les océans pour bien se saper, reste à éviter que les cultures pour nous vêtir ne viennent pas empiéter sur celles qui doivent avant tout nous nourrir.
Merci Fanny Agostini, notre planète tous les matins sur Europe 1. Il est 8h43 et dans quelques toutes petites secondes, nous retrouvons Nicolas Canteloup avec Julie qui s'installe.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu.
Eh oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer. Et surtout, regarde la France se reconfiner. Oui, se reconfiner. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui va s'exprimer ce soir à 20h. À 20h pour annoncer le reconfinement. Ça ressemble beaucoup à une soirée, disons, une soirée Titanic.
Non,
une soirée Titanic. Tout le monde regarde attentivement la télé alors que tout le monde sait déjà ce qu'il va dire. On sait que ça va finir très, très, très mal. L'autre info, restons positifs. L'autre info, c'est ce possible reconfinement. Et... Ah ben non, oui, c'est la même info que la précédente. Pardon. Oui, c'est quand même l'actualité. Donc on est au cœur de l'actualité sur Europe 1. Le reconfinement, donc annoncé ce soir par Emmanuel Macron à 20h. Mais pire, c'est donc bientôt le retour des lives Instagram, les lives Instagram de profs improvisés de yoga. Le retour des recettes pour faire du pain chez soi. Le retour en enfer, quoi. Disons-le franchement. Allez, on passe à autre chose. L'autre info, c'est évidemment le reconfinement qui se profile à grands pas. Parce que, oui, c'est toujours la même info que la précédente. Oui, bon, mais revoilà donc le moment d'acheter. Chers auditeurs, c'est un conseil européen. On en parlait avec Jimmy Mohamed. C'est le conseil de la matinale. Achetez du papier toilette. Achetez une PlayStation et un chien pour vous tenir compagnie pendant cette période de reconfinement pour les gens qui sont seuls. C'est fou quand même. Imaginez Julie, cette phrase prononcée en 2018, on aurait fait un beat total. Et là, ça devient logique. Je crois, chère Julie, qu'on devient fou.
Dis donc.
Restons positifs.
À demain, Mathieu. Nicolas Sarkozy est avec nous maintenant. On va revenir sur le reconfinement qui se rapproche. Bonjour à vous.
Oui, écoutez, merci de m'accueillir. Vous êtes sûr de quoi que vous avez dit là ? Non, parce que moi,
quoi ?
Il n'y a pas un autre confinement là. Parce que moi, je veux que mon procès soit avancé à demain. Voilà.
Pourquoi ?
Oui, mais écoutez, parce que je ne veux pas de reconfinement. J'avoue tout. Voilà. J'ai pris 100 milliards de Kadhafi à Kadhafi pour financer ma campagne. Voilà, je veux aller en prison.
Ah, parce que c'est si dur.
C'est une urgence. Je veux aller en prison.
Le confinement, c'est si dur que ça pour vous ?
Oui, je veux aller en prison, mais vous rigolez. Mais
pourquoi ?
Carla. Vous savez son actualité à Carla ? Elle vient de sortir un nouvel album.
Ah oui, très
bien, elle répète tous les jours ses nouvelles chansons à la maison. Hein ? Et puis refaire l'école tous les jours, la petite Julia, hein, et lui expliquer quoi que c'est le participe passé du subjonctif présent. Non, franchement, j'en peux plus. Non, mais Mme Leclerc, M. Béliard, je vous prends droit dans les yeux. Je vais vous dire une chose, les coupes qui sont normales ont supporté un confinement. Ça, je dis pas. On a joué de jeu. Mais ils supporteront pas de confinement, les coupes normales. Je veux aller en prison.
Bon, mais écoutez, la demande est lancée. Hein. Merci, M. Sarkozy.
Je vous remercie de faire passer.
Nous sommes avec le président de la République. Bonjour à vous.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Alors, vous avez à nouveau de mauvaises nouvelles à annoncer. Hein. Ben, nous, on est un petit peu perdus. Comment vous voyez l'avenir, vous ? Dites-nous.
Écoutez, chère Julie Leclerc, je n'ai plus qu'une seule certitude. Quelle que soit la décision que je prendrai, les Français vont gueuler. Voilà. Je ferme tout, je suis un dictateur qui prive de liberté. Je laisse ouvert, je suis un libéral qui pense qu'à l'économie et au pognon. Non mais, quel que soit le scénario, je paume. À tous les coups, je perds.
Ah oui, c'est pas faux. Bon, écoutez, on parle beaucoup de ces tests rapides, hein, bientôt disponibles en pharmacie. Mais ces tests ne seraient pas fiables. Allez, ça fait peur aux Français.
Il serait pas fiable et ça fait peur aux Français. Bon, ouais. Écoutez, les Français, vous avez des tests pas fiables. Moi, j'ai des ministres pas fiables. Ouais. J'ai Bachelot, j'ai Castex. Mais vous croyez qu'ils sont fiables ? Non. Bon, ben voilà, on fait avec. Voilà, c'est la guerre. Que voulez-vous ?
Alors, on a beaucoup entendu que ces mesures allaient servir à sauver Noël. Mais est-ce qu'on va vraiment sauver Noël ?
Oui, d'ailleurs, à ce sujet, sur le fait de sauver Noël, pardon, je tiens d'ailleurs à m'excuser par avance auprès de Erdogan, du président Erdogan. Oui. Il est possible que nous fêtions cette fête chrétienne de Noël. Je sais, non, j'anticipe parce que je sais qu'il est un peu soupelé. Je sais qu'il va le prendre comme une offense faite au monde musulman, donc je m'en excuse auprès de lui par avance. Et pour le 24 décembre, il est possible, c'est pas sûr, mais il est possible qu'on boycotte les kebabs parce que nous sommes plus d'indomarons que kebabs. Navré, hein, cher Erdo.
Merci Emmanuel Macron. Bah justement, tiens, le président continue à appeler au boycott des produits français. Jean Castex est avec nous. Quelle est la réponse de la France à ce boycott ?
Bonjour, mamie Julie. Là, pardon, madame Julie, excusez-moi, un peu de trivialité, mais vous savez, cette forme de proximité, pour moi, est un signe d'affection. Alors, et la réponse, puisque je vais faire réponse à votre question, la réponse de la France à ce boycott. Alors,
boycott.
Oui, boycott, pardonnez-moi. Et la réponse de boycott est forte. En effet, et c'est avec force que nous nous embattons les steaks. Et nous gérons une pandémie et une menace terroriste. Alors que M. Erdogan refuse de manger sa vache qui rit parce qu'il a peur d'un dessin, excusez-moi, mais je m'en tamponne le coquillard.
Oui, c'est bon. Alors la consigne est de ne pas réagir. Il faut dire que ces boycotts ne sont pas spécialement suivis. C'est surtout chez les conservateurs qu'on relate le boycott. Économiquement, ce n'est pas très impactant.
Oui, pas très impactant. Non, vous avez raison, pas très impactant. Que des islamistes boycottent le vin et le saucisson Justin Bridoux, je vous avoue qu'effectivement, ça ne se ressemble pas trop.
Allez, autre chose, l'hypothèse du reconfinement. Alors, vous travaillez dessus.
Exactement, exactement. Mais que l'on se rassure, nous ne commettrons pas les erreurs de la première vague. Il y aura du papier de toilette, et je m'en suis assuré, et des nouilles dans tous les magasins, open bar sur les nouilles et le PQ.
Alors c'est vrai que Panzani a fait savoir qu'il y aurait suffisamment de stock de pâtes.
Oui, et Henri Cochet.
Oui.
Ce boycott au Moyen-Orient est plutôt pratique.
Ah bon ?
Les Français, en effet, pourront donc manger toutes les nouilles qui étaient à destination de la Turquie. Ensuite, un babybel, ils pourront le manger, celui qui était à destination à l'Arabie Saoudite. Et au dessert, une danette dont le covette ne veut plus.
Le covette,
non, je pense, madame Julie Leclerc. Pardon, vous me parlez ?
Oui, non, mais le covette, ça y est, on vient de.
Le covette, vous l'avez. Le covette, c'est comme le boycott. Alors, on va passer, j'en suis convaincu, je le dis à nos compatriotes, nous allons passer un confinement à bien se faire péter le bide.
Ah, ben on est rassurés alors. Merci, monsieur Castex.
Je vous en prie.
Les cas de Covid explosent dans la région lyonnaise, une des plus touchées, tandis qu'un des scénarios étudiés par le gouvernement est de mettre à l'isolement les personnes de plus de 65 ans. Et devinez qui on accueille ? Gérard Collomb.
Ah. Oui, bonjour madame Julie. Écoutez, cette mise en quarantaine des vieux est absolument, disons-le, inique et injuste. Et puis, cela crée des injustices au sein même des familles.
Ah, vous pensez aux petits-enfants qui ne pourront plus voir les papis, les mamies ?
Oui, non, je pense. Je pense aux... Non, pas aux petits-enfants, je pense aux hommes. Aux hommes virils et encore en pleine santé de 73 ans qui ne pourront plus voir leur femme jeune de 40 ans. Non mais il faut se mettre dans la situation pratique. Vous imaginez cette situation, hein ? Bisous chérie, je vais au resto avec des copines, diront certaines femmes. Toi tu ne peux pas sortir, tu es trop vieux. Non, franchement, non, je le dis au président de la République. Non, monsieur le président, vous ne pouvez pas faire subir cela aux personnes âgées. Moi, bien sûr, je suis au-dessus de tout cela. Vous savez, je suis jeune, mais je pense à nos concitoyens plus âgés, les vieux. C'est terrible pour eux.
Chérie, je sors.
Oui. Je vais rester un peu. Hein. J'ai un peu de... J'ai du boulot.
Un petit tour chez les colons. Allez, merci beaucoup, Gérard Collomb. Allez, encore un mot de l'appel du président turc. Boycott des produits Made in France. Et le Made in France, ben, c'est lui, c'est son truc. J'allais dire son truc. Arnaud Montebourg, bonjour.
Bon Jimmy. Oui, salut la Julie, pardon, salut le Béliard. Dis donc, mais c'est quoi son problème au Erdogan, hein ? Il veut plus de Kiri, il veut plus de Bache Kiri, il veut plus de Caprice des dieux. Il a quoi le Erdogan ? Il a un problème avec les produits laitiers, moi je te le dis. Mais je te le dis, moi, Erdogan, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et vache qui rit, rira bien le dernier.
Oh, bah, les... ah. Oh, bah vous êtes remonté, vous, ce matin, ah. Hein, Arnaud Montebourg.
Ouais, ouais, mais bien sûr, je suis colère, ma Juju. Parce que qui dit boycott des produits laitiers dit boycott des glaces la mémère, parce que c'était avec du lait entier, du bon lait bio, du vrai. Pourquoi qu'il veut pas bouffer ma mémère, Erdogan? Elle n'est pas bonne, ma mémère.
Non, pardon, Arnaud. Dites-nous, vous vendez beaucoup de glaces mémère en Turquie, hein? Avouez.
Je vais jouer franc jeu avec toi, ma Julie, parce que je te connais depuis un bout de temps. Est-ce qu'on vend beaucoup de glaces mémère en Turquie?
Oui.
Pas énorme. Chiffre d'affaires n'est pas énorme. Il y a deux ans, il y a un Turc qui m'a pris deux pots. Deux pots poireaux pistache.
Oula.
Oui, parce que... Bon, non, mais oui, tu souris. C'est facile de sourire, mais il faut savoir la chaîne de production. Mémère, il faut savoir comment c'est fabriqué, la création.
Alors dites-nous.
Mémère a Alzheimer. Fait des associations de parfums bizarres en ce moment. On a poireaux pistache. On a aussi du macadamia brocoli qui marche pas fort. Et du vanille de Madagascar poireau. Pas fort non plus. Bref. J'ai vendu, je reviens à mon histoire, deux pots à un Turc, mais ça m'a quand même fait tout de suite monter le chiffre d'affaires. J'ai tout de suite fait 12,40€ de chiffre d'affaires l'année.
Donc, vous dites aux Turcs, achetez du Made in France.
Mais bien sûr que les Turcs doivent acheter du Made in France. Bon, après, le prix d'un robot Moulinex, c'est 3 mois de salaire en Turquie, c'est peut-être pas...
Ah bah oui.
C'est peut-être là où ça va coincer.
Oui, comme vous dites, ouais.
Merci Nicolas Cotelot, on en avait tellement besoin, Nicolas et Julie, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Et merci aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Philippe Bandel est là, évidemment. Il est toujours là un peu en avance pour écouter Cotelot, un peu sourire avant Culture Média. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. La grande question dans l'info média du jour, est-ce qu'on peut encore parler de laïcité sans polémique? Difficile mais pas impossible. On va le voir avec nos deux invités dans deux genres complètement différents. La chaîne parlementaire institutionnelle et plutôt dans la contre-culture Vice TV France. On sera avec la directrice Guylaine Chenu et son directeur respectif Romain Marcilli, l'une et l'autre. François Bunel qui présente La Grande Librairie, c'est ce soir sur France 5. Mais surtout, il vient parler d'une très belle opération solidaire. Ça s'appelle Donner à lire. De quoi s'agit-il? Ben, faut écouter l'émission, il va nous l'expliquer. Et puis enfin, un écrivain très populaire, alors je prends mon souffle, c'est le type qui a écrit « L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea ». 1 million d'exemplaires, 1,5 million d'exemplaires vendus dans 40 pays dans le monde entier. Il s'appelle Romain Puertolas, il revient avec une nouvelle histoire, au titre plus court, mais encore plus barré.
Je vous donne deux rendez-vous, allez-y. Avant de vous laisser dans les mains... experte mais délicate de Philippe Vandel.
Toujours.
20h ce soir, le président de la République prend la parole, vous l'écouterez sur Europe 1, analyse, débat avec Julien Bugier. Ensuite, édition spéciale bien sûr, demain matin, édition spéciale de 7h à 9h pour revenir sur ces annonces, ce reconfinement annoncé. Nous sommes ensemble pour vous accompagner dans cette période si particulière, vous le savez. Je vous souhaite une belle journée quand même.
Et je voulais dire, demain matin... dans Culture Média, François Hollande.
Oui, ah oui, mais vous faites bien de le dire. On va l'annoncer demain matin à nouveau, mais François Hollande sera demain matin l'invité de Culture Média. Bon, je vous retrouve demain à 7h. D'ici là, vous le savez, hein, plus que jamais, le monde aura changé. On va vous le raconter.